et c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 22h minuit, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis et bienvenue sur Beurre FM. Quelle joie, quel bonheur de vous retrouver en ce jeudi 14 mars de l'année 2024. Ah, j'aime bien être précise. Vous savez pourquoi je le fais? Vous le savez. Eh oui, des fois que vous pensiez que, je sais pas moi, que nous ne sommes pas en direct, que c'est une rediff, qu'on fait du faux direct, ça peut arriver dans certaines radios, mais pas chez nous. Nous sommes en direct. Voilà. Sahaf Torkoum, chers amis, le printemps s'est installé. Et c'est pour ça que c'est du bonheur pour nous. Par contre, vous allez me remplir tout de suite ce standard. Sinon, moi, je mets de la musique. Et puis voilà quoi. Donc remplissez-moi ce standard 01 53 48 3000. Venez videz votre cœur, parfois un cœur trop plein, trop chargé. Il y a de très bonnes oreilles pour vous écouter, croyez-moi. Quelques conseils vous seront donnés également à travers les expériences des uns des autres. Vous pouvez également venir, surtout en ce mois particulier du mois de Ramadan, venir nous parler de vos souvenirs, hein, de vos souvenirs passés, etc. Comment vous passiez dans le temps, dans le passé, ces belles soirées qu'on appelait les sarrettes, les veillées du mois de Ramadan. Et là, chaque soir, nous avons rendez-vous justement pour une veillée, chaque soir, une veillée, une sahra du mois de Ramadan. Et il est là, Solal, avec... Pourquoi t'as remis ton bonnet? Oh non, mais ça m'énerve. Il est bien ton bonnet.
C'est surtout toi, pourquoi t'as pas ton bonnet sur
la
tête?
Ah ouais, c'est vrai. Il m'a offert le même bonnet. Il est allé jusqu'au magasin m'acheter le même bonnet. Il m'a pris en photo en plus. Il m'a promis de pas le mettre sur les réseaux, parce que dis donc. Mais je l'ai mis hier soir pour dormir. C'est vrai que c'est doux, c'est pratique. Ben, j'ai rêvé de toi toute la nuit.
Oh non, mais attends.
Oh là là, on se bagarrait. Oh là là, tu m'écoutais pas, tu me disais.
Mais il y a des gens qui nous entendent.
Tu m'éteignais le micro, tu me faisais plein de trucs, mais franchement, il est un micro, il le rallume. Ah non, 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 c'était cauchemardesque.
Ah ben bon. Merde alors.
Bah oui, parce que je t'avais sur la tête avec Non, je plaisante. Non,
très heureux d'être là, Vanessa. Écoute, toujours au 01 53 48 3000, ça change pas pour nous avoir en direct. Mm-hmm. Et bon, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont parmi nous déjà, donc on vous invite sur surprise,
invités.
Forcément.
Les invités, voilà, que je présenterai tout à l'heure, hein, n'est-ce pas? Et donc, est-ce que t'es content d'être là, toi?
Bah ouais, moi j'attends les premiers appels. Moi, ça, je fonctionne un peu comme ça. Hein, déjà, que tu sois là, Vanessa, tous les soirs, moi, c'est ma tête, elle change automatiquement. T'es la première à le voir. L'enchaînement Time Sport Confidence, moi, ça ne fait que monter mon sourire dans tous les cas. Et là, il y a les premiers appels qui commencent à arriver. On est ensemble jusqu'à minuit, période Ramadan. Moi, minuit, je fête ma 21e bougie. Donc,
c'est vrai.
Vanessa, bon, j'aurais aimé que ce soit avec ma vraie mère, mais c'est ma mère
d'adoption.
D'adoption, voilà. Ouais. Donc, ça me va tout autant.
Ah, ça me touche. Vous avez entendu ce qu'il a dit, je suis sa maman d'adoption. Mais c'est vrai que je l'ai adoptée il y a longtemps. Elle le sait, sa maman, hein. Hein, F, Fafa, si elle est à écoute. Elle le sait qu'ici, je le protège, je le câline, c'est mon petit bébé. Voilà, c'est mon petit bébé. Donc il a la maman à la maison, puis une autre maman ici. C'est formidable. Mais bon, j'ai pas grand chose à faire parce que l'éducation, déjà, elle est bien en place. Bravo à la maman, bravo au papa que je connais. 01 53 48 3000, le standard se remplit. C'est comme ça que je vous aime, chers amis. Je tiens à vous le dire. D'accord? Mais tout d'abord, avant de vous donner la parole, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Allah yajibikoum chanchallah, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles. On n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune, chers amis. Et surtout, en ce mois béni, ce mois sacré du mois de Ramadan, le mois du recueillement, le mois de la clémence, de l'amour, du pardon, hein, eh bien nous pensons à ce malheureux peuple qui souffre dans sa chair, qui souffre dans son âme, qui a commencé le Ramadan il y a bien longtemps déjà. Eh bien je pense au peuple palestinien qui est en souffrance en ce moment, au peuple gazaoui, à tous ces enfants qui sont juste massacrés, voilà. Eh bien, de tout cœur avec ce peuple, vraiment, et prions, faisons des doigts, fehed shar ramadan, pour que, enfin, la raison revienne, à ceux qui ont décidé de leur sort, malheureusement. Eh oui, que vous voulez que je vous dise. Dans ce monde, malheureusement, eh bien, il n'y a pas toujours les meilleurs, voyez-vous. Mais là, il y a des hommes, Inch'Allah. Là, il y a des hommes. 01 53 48 3000, eh bien, il se remplit, mon standard. C'est comme ça que je l'aime. Donc, il y a Cédric, David, Michel. Qui d'autre? Fatiha. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par les femmes. Bah oui, Fatiha, normal. Bonsoir Fatiha, comment vas-tu?
Tu m'as fait rire.
Pourquoi je t'ai fait rire?
Les femmes.
Ah bah oui. Bah oui, honneur aux femmes quand même. Hein. Il y a fait bled. Quand ils font les mariages, c'est toujours c'est better gel. Est-ce que vous avez servi les hommes?
C'est vrai.
Les hommes d'abord, les hommes.
C'est vrai.
Non mais c'est vrai ou pas? Donc il faut changer, ses mentalités. Hein. Ah ouais. La parité.
Vanessa, tu es vraiment notre bouffée d'oxygène.
Oh, ça me fait plaisir.
Surtout c'est Ramadan. Alors là, j'ai pris mon petit café noir. J'en ai pris trois.
C'est pas vrai.
Non, mais très léger, très léger.
Ah bon.
Me fera le broncher quand même.
Ah oui, bois de l'eau, hein, surtout, il faut s'hydrater, hein, moi je
oui,
vous le dis. Hein.
Oui.
Pas jouer avec ça.
Eh
hein.
Ben, j'ai dit, ah, c'est le mission qui commence, allez, je vais tenter ma chance et je passe la première. Ramadan, finalement, je serai ma tu vois, on attend avec toi.
Ah ben écoute, ça me touche.
Au fur et à mesure que tous les auditeurs comprennent.
Voilà, que tout le monde puisse comprendre.
Pour ne pas accaparer l'antenne.
Non, mais tu peux accaparer, je peux te garder jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci.
Oui. Si dit Ramadan, tu vois comme ça, avec toi, c'est pas parce qu'on est en communauté ou quoi que ce soit.
Non.
C'est Ramadan. Et on se retrouve, on se trouve à nous reporter, vu ma génération, à des souvenirs et des souvenirs, mais que de choses agréables.
Oui.
En pire, c'est un qui remonte et qui font du bien.
C'est vrai.
Même si on a perdu beaucoup d'êtres chers.
Malheureusement.
Exemple, moi, j'ai perdu. On était une famille nombreuse. Chez nous, on attirait les gens, surtout notre mère. Notre mère, elle attirait tout le monde. Dès qu'elle est partie, il y a 18 ans, elle a fait le vide. Mais elle a laissé faire Ramadan incroyable. Et elle a laissé beaucoup. Par exemple, je te donne un simple exemple.
Oui.
Jamais il me viendrait à l'esprit d'aller ici à Paris acheter du qtaïf.
Qtaïf, ah oui.
Je parle pas. Non.
Container qtaïf. Alors là, c'est. Alors il faut qu'on dise ce que c'est les qtaïf.
Alors, attends,
tu l'expliques à nos amis qui connaissent pas.
Eh ben, je vais te dire.
Alors,
nous, je vais te dire. Qtaïf, tu n'as que de famille. C'est sa grand-mère, c'est-à-dire notre arrière-grand-mère, qui en était spécialiste. Alors, quand on était vraiment ado, un peu plus, sinon, jusqu'à présent, notre maison, c'est une grande maison familiale, bon, tout le monde est parti, on était, nous, notre tante, nos cousins, Darna, Jenem, une tante qui n'avait plus personne après l'indépendance, qui avait vécu avec nous, et tout ça.
Oui.
Donc, voilà. Eh ben, c'est cette arrière-grand-mère. Chaque soir, sur Ramadan, je me rappelle depuis notre adolescence, c'est son mari, elle s'était remariée, donc voilà.
Oui.
C'est son mari qui lui préparait le. Je ne sais pas comment dire ça.
Elle dis-le en arabe et je vais traduire, vas-y.
Bon, une espèce de. Comment dirais-je?
Kolehab l'arabia, vas-y.
Au feu de braise. Hein. Il lui a installé. Nefer,
c'est un kanoun. Sur lequel on fait, on met les marmites, etc. À l'époque, et c'est un canoun en terre et qui cuit les aliments, avec du charbon. Hein, c'est ça, on met du charbon de bois, de la braise. Oui. C'est ce qu'on fait souvent c'est traditionnel. On fait ça dans les campagnes, dans les montagnes en Algérie. Et la saveur, elle se développe au fur et à mesure de la cuisson. Voilà.
Pour le détail.
Ouais.
Faut pas oublier qu'il y a des gens. Je sais que la belle-mère de ma sœur Blidéane, la charba.
Oh, t'as tout dit.
La charba taha jusqu'à la dernière minute, même avec tout le confort, il fallait qu'elle soit cuite au feu de. C'est-à-dire sur le.
Neuf, ah oui. Mais c'est tellement bon la saveur. Moi j'avais une tante, j'en parle souvent, t'as dû entendre, je parle tout le temps d'elle parce que c'est ma tante préférée quoi, c'est voilà, tant pis pour les autres si elles écoutent, mais c'est vraiment c'est la sœur de ma mère, la yarhamha Usaliha Khalti Awisha. Eh bien la yarhamha, c'est une femme que j'adore, elle adorait faire la cuisine et c'est peut-être pour ça que j'aime faire la cuisine, j'ai l'impression, j'étais tellement proche d'elle. C'était mes yeux cette femme. Eh bien elle avait alors chez elle comme tout le monde, elle avait une cuisine avec la cuisinière, tout ce qu'il faut. Mais elle faisait dans la cour à manger. Je lui disais, elle me dit, ma fille, tu dis pas que tu me dis toujours que ma cuisine elle est encore mieux que celle de ta mère. Je lui dis, bah oui. Elle me dit, bah, c'est parce que justement, voilà le secret. Jamais, alors c'était très rare, elle faisait bouillir du lait le matin pour le petit déjeuner, tout ça sur la cuisinière. Elle n'aimait pas sa cuisinière. Mais par contre, dans la cour, elle avait une jolie cour avec un jasmin et puis avec un puits. Oh, je me souviens, c'était magnifique, c'était typique, hein, vraiment. Et il y avait tout le temps ce canoun qu'elle sortait, cette nefer, voilà, ce canoun en terre où elle mettait du charbon dedans et puis avec une espèce d'éventail mais marouha. Et alors donc elle soufflait sur la braise et le manger, bon, ça mettait toute la matinée, hein, je te raconte pas, hein, surtout quand c'est la viande et tout. Mais ça, mais une saveur, je n'ai jamais retrouvé cette saveur, impossible.
Eh bien,
moi, si j'ai un jour j'ai une maison, j'achèterai un canoun. Oulala, des mains. Ah oui, je le ferai. Je ferai comme les gens de chez nous avant. Moi, j'adore cette tradition.
Mais moi, je vais te dire cette histoire de Rtaïf. Quand je te dis canoun, le nafor, c'est peu dire. Parce que elle, notre arrière-grand-mère, elle faisait le Rtaïf pas sur un petit plateau. Je veux dire, un plateau, je vais te dire, de diamètre, il était de, je crois, environ un mètre. Tu vois ce que c'est?
Oui, je vois.
Voilà, donc elle faisait ça. Et donc son mari, c'était quoi le canoun? Elle avait sa place dans le jardin. Il y avait un coin de jardin, un endroit bien abrité.
Oui.
Et quand elle est décédée, la relève a été prise par ma mère après les belles filles et tout ça. Donc ma mère, ensuite les autres, jusqu'à, je vais dire, ma petite sœur. Ma petite sœur qui est plus jeune que moi, elle sait le faire. Moi, je n'ai jamais touché. C'est pour les en élus. Mais cette arrière-grand-mère, comment il lui préparait son canon, son mari? J'en ai les larmes aux yeux de nostalgie, pas de tristesse.
Non, mais de nostalgie, oui. Il y a de la belle nostalgie qu'il faut préserver, d'ailleurs.
Très belle. Et ben, je vais te dire, j'ai même la photo de ma mère en train de faire le ktaïf à la manière de notre arrière-grand-mère sur cette installation, mais c'est une magnifique. Autre. Et ma propre fille, qui était toute petite à côté d'elle, j'ai la photo, je peux te l'envoyer.
Ah ben, je veux bien. Moi, j'adore. Moi, j'adore ce que tu me racontes, j'adore, vraiment. J'ai la même nostalgie que toi.
Tu sais ce que c'est, le canon qu'il lui faisait? C'est rien du tout. Il prenait des briques.
Ah oui.
Je vais dire.
Il fabriquait, oui.
Il fabriquait. Il prenait, on va dire.
Il faisait tout le tour avec les briques.
Il avait trois pieds, on va dire trois pieds pour qu'il soit en équilibre.
Un trépied. Ne pars pas, Fatiha. Mon Dieu, que c'est beau, tu nous as plongé. Ah, dans les belles années, parce que quand on pense à cette époque, mon Dieu, on a tout à disposition, tout est moderne, Zama, tout, mais aucune saveur, et le monde devient de plus en plus triste, vous voyez. Même le confort, il nous apporte pas ces belles choses que nos grand-mères avaient. Elles avaient pas le confort, c'était la colonisation, etc., mais elles arrivaient à trouver toujours de quoi être heureuses et rendre heureux leur entourage et leur faire oublier le quotidien. Ah, merci Fatiha. Ne pars pas Fatiha, 01 53 48 3000. Et les autres, il y a encore de la place si vous voulez venir. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 22h minuit, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Trois mille, nous sommes toujours ensemble, Confidence, jusqu'à minuit. Et demain, nous serons de combien déjà? Demain, on sera le combien, Solal? Est-ce que tu peux me dire? Parce que je sais pas, moi, je sais plus. Demain, on sera le 15.
Ouais, c'est l'anniversaire de Paul Pogba.
T'es né comme moi à 15, sauf que moi, c'est dans un mois. 15. Alors, Solal, demain, c'est son anniversaire. Ah là là,
anniversaire Solal, joyeux anniversaire Solal, joyeux anniversaire Solal, joyeux anniversaire.
Alors en anglais.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy. birthday to you, Solal. Happy birthday to you.
Merci.
Vous êtes des amours, hein, les amis. Hein. Franchement, bah écoutez, c'est un peu la surprise apparente du studio. Merci Vanessa et rentrez bien, chers amis. Ça me fait très plaisir. Écoutez, ouais, 21 years old et une année passée déjà avec Vanessa. Tous les soirs, c'est un plaisir. C'est ce que je disais en début d'émission. C'est vrai que les 21, je vais les fêter un peu ici, juste après l'émission entre guillemets avec Vanessa, et sera la première personne que je verrai en tout cas à minuit.
Oui. Donc, quel bonheur.
Bah écoute, merci Vanessa, merci beaucoup.
Je t'en prie. Bah tu vois, ils sont passés juste pour te dire joyeux anniversaire puisqu'ils sont partis là. C'est pas beau ça, hein, franchement. Ah, c'est magnifique, hein, vraiment. On a passé un sympathique moment là. Ah, et puis là, on se sent seul là, soudainement. Hein. C'est assez vidé. Il n'y a plus personne. Bon, bah écoute. En tout cas, oui, joyeux anniversaire Solal, que du bonheur pour toi, la santé pour toi, pour tes parents, tes proches.
C'est demain.
Et c'est demain, mais on s'en fiche, on peut commencer aujourd'hui quand on aime.
Merci. Hein.
Voilà, une belle carrière. Voilà, voilà, voilà. Ah, que ça fait du bien. Alors, nous étions avec... Oh, on était avec Fatiha dans les souvenirs. Alors, Fatiha, toujours les souvenirs. Et les autres, vous faites quoi? Fatiha, elle parle de ses souvenirs. Et les autres, vous faites quoi? Bah, moi, je me demande, hein. Je me demande, heureusement que tu es là pour raconter les souvenirs d'antan. Hein, bon, alors, Fatiha, continue parce que c'est juste magnifique. On est en plein dans l'ambiance du mois de Ramadan, des veillées du mois de Ramadan d'antan avec toi.
Oui. Alors, pour te dire la suite, donc, elle avait cette préparation et c'est son mari qui lui préparait tout ça, juste mon leftover. Elle l'entamait le taïf le soir.
Ouais.
Donc, la pâte, elle était préparée à l'avant, c'est une pâte très liquide. Il y avait tout le matériel, donc carrément pour le faire sur ce canon, on s'assoit par terre, c'est-à-dire sur un truc un peu surélevé.
Oui, 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 bien sûr.
Bon, génération d'après, c'est sur un tabouret, mais elle avait tout son confort. Et donc elle avait sa pâte bien préparée, tout ça. Wow. L'entonnoir qui est l'ustensile le plus important avec le plat, le
oui,
grand plat.
Effectivement.
Le plat a été traité régulièrement avec de la moelle, de la poêle épinière carrément. Hein.
Ah oui.
Ah oui, oui, pour le goût et tout ça. Enfin, le plat, voilà. Elle avait son entonnoir. Je sais pas.
Pour un entonnoir assez spécial quand même. Hein.
Il est spécial, c'est un entonnoir, on va dire 10 cm à peu près de diamètre, comme ça, ou un peu plus. On le tient avec l'index et le pouce.
Ah ouais.
Voilà. Et on fait tourner. Donc, il a des espèces de piquets qui descendent et qui vont en pointe. Et au bout de chaque pointe, il y a un trou. Donc, elle prend, on trempe l'entonnoir dans la pâte, on ramène un peu de pâte, mais comme c'est liquide, il faut avoir le geste.
Il faut aller
très vite et il faut faire des cercles concentriques. Bon, comme ex-prof de maths, donc j'explique. C'est-à-dire des cercles les uns dans les autres.
Mais en commençant,
pour, tu sais pourquoi? Parce que la pâte, si elle touche le plateau et qu'on va n'importe où, elle va faire des... C'est pas que ça colle.
Ah bon?
Ça cuit tout de suite.
Ça cuit,
de la pâte qui va s'étaler, alors que là, ça doit être des cils très fins, comme des cheveux d'ange, très très fins.
C'est comme des cheveux d'ange, oui, c'est très fin.
Mais c'est vachement
compliqué ce truc.
Fais maison, je te dis pas. Alors, comment elle fait? Comment on fait? J'ai toujours vu, mais j'ai jamais fait, parce que c'est trop compliqué pour moi, c'est ailleurs. Alors, l'entonnoir, il va du bord du plateau, imagine, il est immense, et tu fais très vite des cercles en allant vers l'intérieur, sans jamais traverser, parce que sinon ça dégouline de pâte et après t'es obligé de... Alors, tout de suite, toi, quand tu arrives au centre du plateau, le bord est déjà cuit, on voit les vermicelles qui se soulèvent.
Ah ouais.
C'est des fils concentriques les uns dans les autres, c'est des cercles.
C'est incroyable.
Alors, juste ça cuit, elle les pousse avec un chiffon sur un immense truc qu'on a préparé, un drap ou n'importe quoi. On les étale pour sécher au fur et à mesure. Mais à côté de ça, nous étions un quartier, une rue spéciale. C'est ça la nostalgie aussi. Toutes les filles du quartier de mon âge, notre génération, venaient et on s'asseyait autour d'elles. C'est où c'est d'art par là.
Oh, l'ambiance.
J'ai la chair, j'en ai la chair de poule.
Oh là 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 là.
Toutes mes voisines de mon âge, chacune est quelque part.
Ouais. Dars Betar, comme on dit.
Oui, exactement. On était là, ça te racontait n'importe quoi, des bourralettes et tout ça. Et donc, il y a l'histoire du Rtaïf. D'ailleurs, c'est elle qui avait commencé à propager le Rtaïf au golf, je veux dire. Il y avait une pâtisserie.
Oui.
Et,
en face
et,
du Monoprix.
Oui, non, pas celle-là. Non, c'était plus bas. Il y avait une pâtisserie plus bas. Parce qu'on habitait là-bas, hein, vers les, voilà.
Mmh.
Et donc, petit à petit, elle s'est fait une réputation. Donc, il sera ravitaillé chez elle.
Oh là.
Donc, le Rtaïf là-bas est né de chez elle, de notre arrière-grand-mère.
C'est fou.
Ça c'est le truc du Rtaïf.
Mmh.
Et l'autre souvenir qui me fait mais alors rendre nostalgique, mais dans un truc magnifique. On a passé Ramadan, bien sûr, chacun le passait comme on le passait
voilà. L'enfant. Oui, oui.
Comme on était, bon, comme dans pas mal de dans des endroits comme ça où il y a une vie familiale.
Oui.
On n'était pas dans des immeubles, mais c'est des maisons, mais chacun va chez l'autre.
Donc, oui, nos mamans, les portes ne se fermaient pas déjà.
Jamais. Nos mamans, elles se rencontraient chaque soir dans une maison.
Dans le Kbira.
Voilà,
ouais.
Je vais le dire.
Oui.
C'est toujours chez nous en majeure mm-hmm. partie, chez nous. C'est pour ça que quand ma mère est décédée, tout le monde a senti le vide.
Oh, c'est le fou, vide. Hein, c'est ça justement.
Le vide total.
C'est incroyable.
Il y a ceux qui sont nos voisines, Khalti une telle, elles sont toutes décédées. Mm-hmm. Et la famille, je ne te dis pas. Alors, C'était la bamboula chez nous.
Incroyable.
Elle venait, donc, le soir, cela. Et jeune fille comme on était, bon, on commençait à prendre de l'âge. Donc, pour donner un exemple de ces soirées qu'on passait, les plus âgés, ils allaient taraouih.
Oui.
Bon, nous, à l'époque.
C'est la prière du soir. Oh, oui.
Oui. Mais bon, est venu le jour où moi-même j'y ai été. Hein, j'y ai été les dernières années après juste avant le décès de ma mère. On commençait à y aller de temps en temps.
D'accord. Oui.
Alors, Khalti, une telle, elle venait chez nous. Elle, par exemple, il y en avait trois qui venaient chez nous. Mmh. Le lendemain, c'est ma mère qui allait chez ma
soeur. C'est ça, un tour de rôle. Oui.
Et un jour, nous autres, les filles, on a une voisine, Mimi, Laït Korha Belkhir.
Mmh.
Elle avait reçu sa copine Malika qui habite un peu plus loin et qui avait tardé, mais il ne fallait pas qu'elle rentre seule chez elle, on va dire. On voulait l'accompagner.
Mmh.
L'accompagner, bon, on s'est dit, allez, par mesure de précaution, on prend avec nous un homme.
Zama.
Le plus disponible, c'était mon frère, plus jeune que moi de 4 ans. Hein. On s'entend très bien jusqu'à présent, d'ailleurs. C'est lui qui nous accompagnait. Et donc, on voulait l'accompagner. C'était pour l'accompagner, je veux dire, pour un quart d'heure de marche, pas plus. C'est pour faire une promenade. On l'a accompagné. On est descendu vers Jonard, je ne sais pas si tu vois. Et on s'est retrouvé à marcher jusqu'à la place Audin, centre-ville.
Ah oui, d'accord. Ah oui, du golf.
Voilà.
Ça descend,
oui.
Hein. Ça descend.
Oui. Et bien, on ne sent pas le chemin.
Non, parce que ça descend. Oui, oui.
Voilà. Et ensuite, on est remonté. Et on s'est dit, à un moment donné, mais ils vont nous chercher. Quand on va nous chercher.
Oui, oui.
On ne s'inquiétait pas parce que quand ils cherchent Fatiha, elle est chez Malika, ou bien elle est chez Mimi, ou bien elle est chez Kunza.
Incroyable.
Quand Tata Zola, elle cherche Mimi, elle se dit, bon, elle est chez Fatiha, je ne m'inquiète pas. Puis en plus, notre rue était familiale, il n'y avait pas de danger.
Non.
Il n'y avait pas de souci. Alors que nous, on avait fait une grande balade. On a été jusque... Mais personne ne se souciait. On arrive, on rentre. Elles étaient tout le temps autour de leur café. Et elles pouvaient pas... personne ne pouvait s'imaginer qu'on avait fait le tour d'Alger.
C'est incroyable, oui. Ouais.
Et l'autre période encore plus nostalgique et qui me fait rire, c'est la période où on était plus jeunes. Parce que la jeune fille, on n'allait pas porter des plateaux sur la tête. Quand on était mpire, comme on dit, hein,
des gamines,
voilà. Alors, les préparatifs de halout l'aïd, les gâteaux de l'aïd.
Oui, les gâteaux de... pour l'aïd.
C'était la grande bamboula. Ce n'était pas des petits plateaux à tour de rôle dans les petits fours à la maison.
Non.
Tout le monde faisait ses gâteaux dans... Alors, je les ai...
Tu ne les ramènes pas chez le boulanger pour qu'elle les cuire chez le
grand... Le... on prenait ça les grands plateaux rectangulaires noirs.
C'est les ça, grands les grands, grands, ouais, ouais.
Nous, on en avait un qui était immense et deux autres. On les prenait sur la tête.
C'est ça.
Sur la tête, avec un truc sur la tête. Et on allait vadrouiller chez le boulanger où les plateaux faisaient la queue. Alors, pour je me remémore, là, donc c'était la boulangerie. Pour nous, la plus proche, et celle où on allait, c'était, pour ceux qui connaissent, la boulangerie Serir, là, c'est le spécialiste du Qalbellouz, hein, le Qalbellouz Serir.
Ah,
à
oui.
tel point que, par exemple, si tu vas actuellement à El Madania, il y a ses enfants, parce que bon, quand il est décédé, puis bien après, les frères se sont chacun éparpillés, mais
chacun
ça a
continué. Sa route, ouais, c'est vrai.
Oui, le Qalbellouz, voilà. On descendait avec les grands plateaux sur la tête,
oui.
Vers les boulangeries. Et là, il y avait tous les plateaux avec des numéros différents. Et
voilà, c'est ça.
Voilà.
C'est magnifique.
Et aussi,
ça, c'était.
Et aussi.
Ouais.
Et
dans
aussi,
chaque ville en Algérie, c'était la même chose. Hein.
Ah ouais. Et Ramadan maintenant à la maison,
ouais.
c'était tout le monde autour de la Meïda. Là,
ah,
on avait.
C'est
un
la table basse, la Meïda.
Là, mon père. Il est décédé en 2019. Il était exceptionnel. Autant il était sportif, tout ce qu'on veut, mais pour lui, Ramadan, c'est impensable autour d'une table haute.
Non. De toute façon, c'est ça le charme, le Ramadan, Fulbled, en Algérie ou au Maroc, je suis sûre, pareil, en Tunisie, tout ça, dans les pays du Maghreb, les pays d'Afrique également. Eh bien, les repas se font sur une table, mais basse, les gens sont assis par terre. Voilà. Et donc, ils sont autour de la Meïda, et cette table qui est large, hein, qui est grande en général. Elle peut être rectangulaire, elle peut être ronde, hein, souvent. Voilà.
Non, ronde, Meïda, c'est
Meïda. C'est ronde, normalement. C'est vrai. C'est
non, c'est plutôt ronde.
Oui, je sais,
mais
c'est rond.
Mais
j'en ai vu des rectangulaires après par la suite, parce que
les rondes,
c'est plus pratique.
Vraiment.
Et les gens sont assis autour de cette belle Meïda, et les gens mangent ou prennent le café, et la discussion, elle est beaucoup plus, on va dire, ça appelle un petit peu à, ça délie les langues, parce que c'est tellement convivial. Eh bien, on est là, on est par terre, tous au même niveau, voilà. Et tout le monde a envie de parler, tout le monde a envie de raconter les blagues, etc., les histoires des uns des autres, parce qu'on aime bien aussi un petit peu faire un peu du comment dire, jacter un petit peu sur le dos des autres, mais c'est gentiment fait. Donc c'est drôle, c'est ce que tu racontes, parce que moi je l'ai vécu quand je partais en vacances en Algérie autour de la Meïda. Les salles à manger sont rarement utilisées. Et quand il y a des gens, des amis, un petit peu, voilà, quand il y a un peu de distance, on va dire. Mais la famille, c'est la Meïda. Tu as raison. Et la Meïda, c'est rond, c'est vrai, tu as raison. Oui. Mais j'ai vu des gens qui avaient des Meïda aussi, par la suite, un peu.
C'est-à-dire que pour une grande famille, c'est comme la table.
Ouais. Mais grande, hein.
Les angles, c'est gênant. Oui, même grande.
Ouais.
Une table qui est ronde prend plus de personnes. Et
c'est
convivial.
Ça. Et c'est plus convivial. C'est vrai. Fatiha, ne part pas. On a une pause. Alors, on a Cédric qui voudrait peut-être s'exprimer là-dessus. J'aimerais bien savoir ce qu'il peut aussi nous apporter comme souvenir. Au 01-53-48-3000. Allez, les autres, réveillez-vous. Vous faites quoi? C'est pas possible, ça. Venez nous raconter vos souvenirs. Moi, j'adore. Merci, Fatiha. Mais les autres, franchement, je suis déçue. Allez, dépêchez-vous. Venez. Là, on marque une courte pause. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Peur FM, 22h minuit. Confidence avec Vanessa.
Au 01 53 48 3000, chers amis. Voilà, alors dépêchez-vous, il reste peu de place. Sinon, les autres, vous n'aurez pas la chance de passer ce soir. On accueille Cédric. Fatiha, je te prends juste avec Cédric, juste après. Cédric, bonsoir. Cédric de Lille.
Bonsoir Vanessa,
ça va? Ça va et toi?
Ben, ça va très bien.
Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter de beau?
Déjà, avant tout, je voulais te dire qu'il y a fait quand.
Éteins ta radio, le haut-parleur, Cédric, s'il te plaît. Parce qu'il y a un écho. Il y a un écho, hein.
Bah oui. Je voulais te dire quand même, il y a quand même fait assez chaud, là, ce soir.
Il fait?
Il fait même encore chaud, ce soir. Il a fait chaud, aujourd'hui.
Il a fait beau. Il a fait bon, chaud. Il fait bon. Pourvu que ça dure. Parle pas trop vite, sinon tu vas nous ramener la neige.
Ah non, bah déjà ce week-end il va pleuvoir, il y a de l'orage.
Ah bah voilà. Si tu viens pour ça, toi.
Non.
J'étais bien, je pensais qu'il allait faire beau toute la semaine. Maintenant, tu me rabaisses le moral, tu me dis il va pleuvoir. Pourquoi? Moi, l'ai-je.
C'était le petit instant météo.
Merci, Cédric. Alors, toi, est-ce que tu as des souvenirs ou des choses? Je sais pas, peut-être que tu as un sujet. Voilà, tiens, un sujet. Après, je reprends avec Fethiha. Mais je voudrais savoir si tu as un sujet à nous proposer.
Des petits souvenirs par rapport au Ramadan. Moi, j'en ai plein.
T'as vu, on a toujours des sujets quand il s'agit de.
On a eu de la chance, c'est que les ramadans derniers, c'était souvent l'été. Donc
c'est vrai.
On avait l'habitude de se rassembler, de faire des barbecues.
C'est vrai. C'est vrai.
L'hiver un peu moins. L'hiver c'était quand même un peu moins. Mais l'été, ouais, les souvenirs du ramadan l'été, c'était quand même exceptionnel. Tout le monde se rassemblait autour d'une grillade avec ou sans mise. Un peu les souvenirs que je garde.
Ouais. Et tu as passé des fois des mois de ramadan au Maroc?
Non, jamais.
Ah ouais, jamais. Donc ça a toujours été. Mais tes parents, pareil?
Pareil, non.
Ouais.
Comme je t'avais dit, moi je ne suis pas musulman. Bien que j'ai une grande spiritualité.
Ouais.
À part de moi, je suis pas musulman. Mais
non, mais c'est pas un problème. Mais tes parents, ils le sont ou pas?
Non, mes parents non, ne le sont pas justement.
Ah oui, d'accord. Ils ont une religion?
Non, ils sont totalement athées. Ma mère, ouais, était musulmane, comme je t'avais dit.
Ouais. Et ton père?
Mon père est totalement athée.
D'accord.
Mais ça m'a pas empêché d'avoir un regard quand même sur mon entourage, mes amis. Il y en avait, comme je te dis, c'était le ramadan l'été, il y a eu des périodes de canicule.
Ouais.
Et c'est vrai quand même que quand on est assez curieux, tout ça.
Mais oui, Cédric, parce que t'as pas besoin d'être musulman pour justement. C'est le partage, c'est comme Noël. Voilà, c'est partage.
Déjà sur le comportement de ne pas s'hydrater en fait toute une journée. Je voyais
c'est la seule difficulté.
Les enfants de mes amis, ils avaient à peine 15 ans, ils essayaient, ils disaient, je vais essayer et tout. Et c'était quand même remarquable, en fait. C'était limite un exploit pour certains.
Ah, c'est une forme de.
Oui. À travers le ramadan, on voyait quand même ceux qui étaient quand même résistants. Ils étaient forts mentalement.
Ben, c'est ça. C'est pour renforcer justement le mental.
Ça,
pour ça aussi, entre autres, il y a plusieurs raisons, mais entre autres, et tu remarqueras dans les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui est venu après, eh bien, il y a le carême. Le carême, chez les chrétiens, existe. Chez les juifs, la Pâque, ils ont une journée, ils mangent pas, mais eux, c'est 24 heures, c'est-à-dire toute la journée et toute la nuit. Donc voilà, mais dans les trois religions, il y a ce carême, quoi, de pas manger, de recueillement, et les moines aujourd'hui, que ce soit chez les bouddhistes ou autres, les moines, sont dans le recueillement, dans le carême de la parole, puisqu'ils parlent pas, et ils mangent très peu, ils mangent une boule, bol de soupe, je crois, ou, tu vois, il y a toujours cette référence de l'alimentation, avec l'alimentation, parce que peut-être que pour nous apprendre, peut-être aussi, d'être.
À tout, Vanessa, c'est encore une fois, sur l'alimentation, il faut être rigoureux.
C'est ça.
Tu parles de moi, pour eux, c'est en toute simplicité, pour
c'est
eux,
ça.
C'est tout à fait normal de se limiter à du riz blanc, avec une viande blanche, avec une carotte.
C'est
sur
ça.
Nous, on voit ça comme.
C'est peut-être ça, finalement, c'est pour nous apprendre un peu la sobriété, l'humilité, la simplicité aussi de la vie, parce que l'être humain, il perd très vite les pédales. Très vite.
Même là, avec la température, en fait, je fais une petite parenthèse, mais tu m'as demandé, est-ce que tu veux ouvrir un autre débat?
Oui.
Je pourrais élargir le débat dans le sens où. Même hors période de ramadan, là, les variations de température, faut savoir gérer quand même. Moi, j'ai une journée avec le travail plutôt stressant. Mmh. Quand ça dépasse 15-20 degrés, avec un ressenti au soleil de 23, ça chamboule quand même un organisme. Que ce soit sur le
Tu sais qu'on a passé des moments de ramadan en pleine canicule, il y a des années en arrière. En août, il y a bien des décennies en arrière. Hein, mais je me souviens, c'était compliqué. C'était compliqué, surtout quand tu passes tes vacances au pays, là-bas, avec la chaleur. Waouh!
Ah, moi, ça m'empêchait pas de faire des photos city avec des amis, hein, de tout âge. Hein. Ça allait de 18 à 30 ans. Les mecs, je peux te dire, ben, mais ça, c'était rigide dans leur tête. Ils jouaient au foot toute l'après-midi.
Ils ont rejoué au foot. Oh ouais.
C'est exceptionnel parce que le mec, il tirait sa journée à 20h, le soleil baissait un tout petit peu. Et pour lui, ce petit air frais, c'était déjà une bouffée d'air exceptionnelle.
Franchement.
Le soleil baisse un peu et là, il y a de l'eau. Dans un courant d'air frais après un foot. T'as l'impression de prendre une douche fraîche, pas toi, moi, c'est ce qu'il me disait.
Ah ouais. Non, c'est...
Mais bon, sur les régulations de température, comme on voit en ce moment, ça joue sur l'humeur, ça joue sur l'organisme. Voilà, il y a des personnes fragiles, hein. Moi, je
bien sûr, bien sûr.
Je remercie Dieu, d'ailleurs, d'être assez costaud en ce moment.
Ouais.
Il y en a qui n'ont pas cette chance. Donc, une petite variation de température, par exemple, en période de ramadan, en plus c'est plus dur, ça peut avoir des conséquences. On ne s'en rend pas compte, mais ça peut avoir des conséquences.
C'est vrai, ça peut. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi. Oui, il y a des personnes fragiles qui ne tiennent pas, c'est compliqué. Et on l'a vu durant la canicule en France, je crois que c'était en 2003. Eh bien, beaucoup de personnes âgées, personnes fragiles, décédées. On a retrouvé des personnes âgées seules, chez elles, au bout de je ne sais combien de temps, des semaines. Parce qu'elle n'apparaissait plus, donc les gens s'inquiétaient, les voisins. Tiens, je vois plus mon voisin, ma voisine. En France, oui. Et qui sont décédés. Je crois que c'était la canicule de l'année 2003, si je me trompe pas. Je vais regarder pour... C'était l'horreur. Il y a eu une hécatombe. Hein. Il y avait des personnes qui décédaient. Il y avait personne qui les réclamait. Ben, tu vois ce que je veux dire.
Justement, en fait, comme aujourd'hui, on est sans s'en rendre compte, on est dans une situation de confort. Pour celui qui a pas une journée stressante et tout, donc c'est une journée agréable, en fait. Donc on est dans une situation de confort. Le radiateur peut un peu encore pousser. Et en fait, on se rend pas compte que le lendemain, ça peut être drastique, en fait. On peut perdre 7-8 avec un taux d'humidité qui monte.
Ouais.
Et voilà, même les personnes âgées, elles pensent pas mieux s'hydrater, par exemple, quand le lendemain, il pleut. On pense forcément à s'hydrater, alors qu'un verre le matin, ça nous ferait du bien. Donc, on y pense plus, comme aujourd'hui, on va prendre un verre, on se dit, on ouvre les volets, il fait chaud, on va boire un verre d'eau, on boit.
Ouais.
Mais le lendemain, quand il fait moins chaud, le verre d'eau, malheureusement, on n'y pense pas.
On n'y pense pas. Et tu sais que les enfants sont sensibles à la température quand elle monte, et les personnes âgées, c'est les personnes les plus vulnérables, et les personnes âgées, parce que plus on avance dans l'âge, et moins on ressent la sensation de soif. Ça ne veut pas dire pour autant que le corps ne réclame pas, mais on a l'impression qu'on n'écoute pas son corps, parce que le cerveau finalement ne réclame pas, parce que on ressent les choses quand le cerveau nous dicte les choses, hein. T'as chaud, t'as ceci, t'as cela. S'il nous demande pas de boire, eh ben on boit pas, on ressent pas la soif. Mais en réalité, le corps souffre parce que tu l'hydrates pas, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se déshydratent, et ça peut être très dangereux. Et c'est pour ça que les personnes âgées, il faut les pousser à boire. Regarde, dans les maisons de retraite, etc., les infirmières en été passent régulièrement avec des brocs d'eau, avec des rondelles de citron, tu sais, pour donner envie.
Pardon ? Là encore, c'est encore une question, ça s'explique en fait. Bon, c'est pas généralisé, c'est des petits cas par cas. Mais venez, ça, tu te souviens pas qu'avant les anciens, quand ils sont rentrés chez eux, il y avait toujours un gobelet, un bol sur la table, une bouteille d'eau. En tout cas, ce qui est du Nord et des petits
coins. Oui, les anciens, c'est vrai.
Vous avez toujours rentré chez la personne, n'importe quelle heure, n'importe quel moment de journée, le bol et la bouteille d'eau. Vous disiez, tiens, la bouteille d'eau, je peux la mettre au frais. Maintenant, ils nous rappelaient que boire de l'eau fraîche,
aïe.
Bon que ça, en fait.
Non. Faut éviter, hein. Voilà, exactement. Eh ben, tiens, regarde. Le nombre, justement, de décès qu'il y a eu en 2003, entre le 1er et le 20 août seulement, hein, ça veut dire même pas un mois, hein, il y a eu environ, en France, 14 800 décès. Dû à la canicule, hein. 14 800. Je sais pas si ça te parle, mais c'est juste énorme. Tu vois. Donc, je sais pas combien qu'il y a eu de décès, par le Covid, mais là, rien que du 1er août au 20 août, je te dis, ça a marqué. Pardon ?
J'ai une question à te poser.
Oui, tiens. Oui, vas-y.
On en a parlé il y a à peu près un mois et demi sur l'avis de son souvenir.
Ouais.
L'intelligence artificielle, alors c'est quelle heure on est ça ?
L'intelligence artificielle, c'est quoi ?
On veut tout parler, de tout mélanger, mais quelque part, une personne qui ne voit pas, qui n'a plus les facultés de penser à s'hydrater.
C'est vrai.
Est-ce que là, pour toi, concernant l'intelligence artificielle, est-ce que tu... Qu'est-ce que tu en penserais que cette personne aurait un automate qui lui rappellerait de boire ?
Ah, ça c'est bien, au moins il a une bonne utilité là. Hein.
Tu vois ?
Mais c'est comme tout. Tu sais, Cédric, c'est comme tout. C'est-à-dire que si on utilisait les choses à bon escient, dans le bon, pour les bonnes causes, les bonnes raisons, tout est bon. Mais sinon, c'est comme tout. C'est exactement comme tout. Tiens, on parle de boire. S'il y a des personnes qui, peut-être, ont perdu un petit peu, on va dire, la mémoire, qui ont perdu leur repère. Hein, il y a des personnes qui perdent leur repère. Hein, en neurologie, ils l'expliquent. Hein. Eh bien, ces personnes, par exemple, dès qu'ils voient une bouteille d'eau, ils boivent. Ces personnes vont boire. Elles vont boire, elles ne savent pas pourquoi elles boivent, hein, mais elles boivent. Voilà, comme ça.
Ah oui,
Non, mais un exemple. Hein, tu sais que si elles boivent 3 ou 4 litres d'eau, c'est mauvais pour l'organisme aussi. C'est-à-dire, tout excès est mauvais. Tout excès est mauvais. C'est fou. C'est pour ça que, par exemple, regarde, il y a des gens qui vont boire de l'alcool. Ils n'ont pas de limite. Qu'est-ce qui va se passer ? Ces personnes vont être violentes. Ça va mal se passer dans leur foyer. Quand elles prennent le volant, on voit ce qui se passe. C'est pour ça qu'on... Voilà, c'est l'excès, en fait. Hein. Tu comprends ? Les gens ne savent pas s'arrêter. C'est pour ça qu'il y a des religions qui interdisent. Parce que les gens, ils n'ont pas de limite. Et comme tu parlais de l'intelligence artificielle, bien sûr que ça a du bon. C'est comme Internet, ça a du bon. Internet, tu fais de la recherche, c'est hyper intéressant, tu vois, les gens curieux, etc. Il y a de la lecture audio pour les personnes qui ont des difficultés à voir.
On s'imagine tout de suite un robot qui viendrait nous donner des ordres et tout. Mais non, en fait, par exemple, les personnes déshydratées, les personnes âgées déshydratées, en fait, ça prend le relais tout de suite.
C'est ça.
Ces choses-là sont en train d'être étudiées.
C'est ça.
Le jour où ça peut être mis en place, comme tu dis, avec bienveillance, je pense qu'on va tous être épatés, en fait, je pense.
Mais je pense qu'on va y arriver. Hein. On va y venir. On va y venir.
Bien sûr.
Alors, c'est un sujet qui est intéressant. J'ai envie de prendre avec nous quelqu'un d'autre pour participer. Je vais voir Fatiha. Ce sujet, je pense qu'elle est tellement curieuse, Fatiha, dans le bon sens. Hein, vraiment une curiosité saine. Et qui peut-être est intéressé par ce sujet du climat. Fatiha, tu es toujours là, ma chérie.
Oui, je suis là, j'écoute.
Qu'est-ce que tu penses de cette discussion c'est vrai qu'on en parle rarement, mais c'est hyper intéressant ce qu'il dit, notre ami. Hein. C'est vrai ou pas ?
Je me souviens de la canicule 2003, exactement.
2003, tu te souviens ?
Oui. Oh. Et moi, je n'oublie pas le détail, et c'est de là que, par exemple, on voit la différence. Du changement climatique.
Oui.
Voilà, parce que avant 2003, il y avait de la neige en hiver et
les saisons. Il y avait les quatre saisons. Saison. C'est vrai.
Et je me rappelle que vu que les saisons étaient des saisons et qu'il y a des gens qui font des programmes en pensant que tout sera figé, etc. Mm-hmm. Je me rappelle d'une info qui s'est passée et un train à Marseille. Tu t'es arrêté carrément parce que je pense que je me souviens d'une information que j'ai entendue, j'en ai pas rêvé, parce que c'était programmé pour une température à 35 degrés maximum.
Ah oui?
Voilà. Oui.
Ah oui.
Et donc, c'est après cette canicule qu'il y a eu réflexion, justement, qu'il y avait des choses à revoir, vu qu'on y est. On y est maintenant.
Oui, c'est déjà à ce temps-là. C'est déjà
voilà,
à ce temps-là.
Les arbres sont en fleurs depuis
décembre.
Vous avez des arbres en
fleurs. Donc, oui, c'était déjà à ce temps-là des restrictions. Tu disais que vous ne pouvez pas aller. C'était quoi avec l'histoire des 35 degrés ? Parce que je n'ai pas très bien compris en fait.
Oui, Fatiha, est-ce que tu peux lui expliquer à notre ami exactement ?
J'avais entendu. Donc c'était vraiment 2003, parce que je n'arrive pas d'oublier.
2003, mais c'était la canicule, oui.
C'était vraiment la période de la canicule, et c'est ce qui a fait que c'était l'année où c'est le président Chirac qui a fait son âme. Ah, s'il avait été là, la France serait encore en bon état, je veux dire. Donc, ceci pour la petite note positive. Voilà, je ne veux pas Et ben tout le monde était en vacances. Et c'est de là que il y a un service minimum qui est depuis, pour que les politiques ne partent pas tous ensemble à des,
c'est-à-dire qu'il y a
des distances limitées.
Oui, oui, limitées, je me souviens. Voilà. Effectivement, je me souviens.
Il était rentré de là où il était vacant. Je me rappelle de ce détail. Il faudrait vérifier.
Non, c'est vrai, je me souviens.
J'avais entendu aux informations que c'était senti à quoi? Au train, je ne sais pas quel train, ou bien est-ce que c'est un TGV, j'en sais rien, je ne me rappelle pas, mais avec c'est-à-dire une limite de température,
ouais.
que ça résistait à une chaleur de 37 degrés par au-delà. Or, on a eu quand même plus.
Ouais. Bon, ben c'est vrai.
Voilà.
Fatiha, tu ne pars pas, Cédric non plus, et on prendra Safia avec nous, Safia de Saint-Denis. Allez hop, tu feras partie de la discussion, ma chérie. 01 53 48 3000, on marque une courte pause, elle est très courte. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Beur FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Au 01 53 48 3000. Voilà pour tout le monde. Alors on est là on est dans la canicule, c'est vrai qu'on a il fait de plus en plus chaud. Il a raison Cédric hein, parce que 2003, on a eu ce phénomène hein, vraiment je sais pas si vous vous souvenez pour les plus âgés hein, comme moi, mais les plus jeunes je pense pas hein, ils se souviennent pas hein. Tu sais pas ce que c'est 2003. Pourquoi la 2003 t'étais même pas dans le ventre de ta mère toi.
Je venais d'en sortir justement 2003.
Ah, t'es né en 2003?
Bah ouais, je suis né en mars 2003, moi je l'ai bien subi la canicule hein. Et les effets secondaires, je vous mens pas, c'est horrible, c'est atroce. Là, j'ai une corne qui m'est poussée par la tête.
Ah, je comprends pourquoi. Vous comprenez pourquoi? Après 2003, tout ce qui est né, vous avez vu ce qu'on a ce qu'on a hérité tous ces gamins là. Aïe, non, mais on rit, mais c'était dramatique, vraiment. Je vous reprends, Cédric et Fatiha, on va continuer sur notre lancée. Mais avant, on va accueillir Safia. Safia, qui nous appelle de Saint-Denis. Safia. Bonsoir, Safia.
Oui, bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, bienvenue, Safia. Et toi, tu vas bien?
Ça va, sahab torak.
Toi aussi, sahab torak aussi.
Tout le monde.
Merci, ma chérie.
Et puis,
sahab
ramdankom.
À toi aussi.
Moi, j'attendais une place dans mon parking. J'ai dit, je vais partager avec eux.
Est-ce que tu as trouvé une place?
Non, pas encore. Je suis dans la voiture.
Oh, mince. Ah ouais, il n'y a pas de place dans le parking?
Non, c'est le cirque.
C'est pas des places attribuées? Non.
Non, pas du tout.
Oh là là. Bah, tu sais ce que tu fais, t'achètes non. Le truc, là. Je sais pas ce que c'est, l'espèce de barre, là, qu'on relève en métal.
Oui, mais ils veulent pas payer les locataires. Moi, je suis dans.
Non, mais tu l'achètes, tu la places, et celui qui est pas content, qu'est-ce que je te dis, Adéia? Ah, on est en 2024, ma chérie.
Hein,
les maïs d'Omch, c'est pas la peine.
Oui, mais
il faut continuer. Hein. On est avec Fatiha et Cédric.
Ben, bonjour Fatiha, bonjour Cédric. Ben, bonsoir, bientôt. Oui. C'est le soir, là. On va bientôt aller dormir.
Non, pas encore, c'est Sahara. Cédric, Fatiha, oui. On est avec Safia, qui a du mal à trouver une place. La pauvre. Alors, c'est son problème, Fatiha, de ne pas trouver. C'est vrai, la nuit, quand tu rentres de ton travail, hein, c'est ça, Safia?
Non, j'étais à la mosquée, j'ai fait la prière.
T'as fait Tarawih?
Ouais.
Voilà, c'est pareil.
Mon travail, je finis à 5h30.
Écoute, comme on dit, Makboul, Inch'Allah. Mais elle rentre la pauvre très tard le soir.
Ouais.
À 23h. Non, c'est pas possible.
Ouais. Ah ouais. Des fois, même je rentre à l'heure du repas, vers 18h, pour faire à manger. Je peux pas. Je reste dans la voiture.
C'est
voilà.
Terrible, ça. Oh ah, les histoires de parking, alors ça,
non,
vraiment.
Là, c'est le cirque. Nous, on est devant une bouche de métro. Avec tous les gens qui veulent prendre de la ligne 13.
D'accord.
Ils viennent directement ici, se garent et nous, on reste comme ça dans le.
Les riverains. C'est terrible, hein?
Dans l'attente. Voilà.
Ça, c'est ça le problème. Ça, le souci, Paris et région parisienne, de ne pas trouver de place pour se garer. Cédric et Fatiha nous parlaient de. Ben, je ne sais pas si toi, tu as souvenir de cette fameuse canicule de l'année 2003 qui a fait tant de victimes malheureuses. Tu te souviens de ça, Fatiha, Safia?
Je me souviens, je suis gardien d'immeuble, moi.
Ah oui, d'accord. Ah oui, ben justement, il y a beaucoup de personnes âgées qui vivaient seules. Et,
On fait plus de social que du gardiennage. Hein,
parce oui, c'est vrai.
Là où on est, nous, plus il y a beaucoup de personnes âgées. Ils sont seuls, ils ne veulent pas sortir.
Bah oui, tu veux qu'ils aillent, Sakine.
Oui, mais normalement, ils devraient s'occuper de ça. Parce que tu travailles toute ta vie pour finir comme ça, c'est triste.
Ouais, mais comment t'expliquer ? C'est-à-dire que, voilà, travailler toute sa vie, oui, on travaille, oui. C'est clair. Oui. Mais ces personnes, elles habitent chez elles, elles ont leurs meubles, elles ont leurs... Il y a les odeurs, tu vois, il y a tous les souvenirs qui sont là. Donc partir...
Ils sont attachés à tout
et, ça. Et tu en as qui les poussent à aller dans des EHPAD. Si c'est pas, comment dire, de leur propre chef, c'est-à-dire ces personnes elles-mêmes qui décident, parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que parfois elles sont, bon, dans une situation... voilà, la santé, etc. C'est pas facile. Voilà, elles n'ont c'est pas vrai. Le choix. Mais quand elles ont toutes leurs facultés, tu vois, mentales, physiques, tout ça, se retrouver dans des EHPAD alors qu'elles ne veulent pas, ben, je trouve ça triste.
Ben, j'ai un cas, si je peux me permettre de parler de ça, mais pas donner de nom et tout ça.
Non, bien sûr.
Une personne âgée, il y a pas longtemps, elle est décédée. Mm-hmm. Enfin, elle vivait toute seule dans son appartement, elle était tranquille et tout ça. Bon, nous, les gardiens, on allait la voir de temps en temps. Il y avait une infirmière le matin, une dame de ménage et tout ça. Mais une fois qu'elle a perdu un peu les repères, quelqu'un de sa famille, je sais pas qui, ils l'ont mis dans l'iPad et puis elle s'est suicidée. Elle avait 86 ans.
86 ans, c'est suicidé. Oh, c'est terrible.
Je parle de ça, mais je suis choquée.
Que c'est triste, mon Dieu, de mourir de cette manière à 86 ans. Oh là là.
Moi, j'ai cru qu'elle est morte naturelle.
Oui, et
après, mon collègue, il m'a dit non, elle s'est suicidée. Et moi, je me suis.
Oh mon Dieu.
Ça m'a donné une grosse claque.
Ah ouais, c'est horrible. Ah, c'est horrible.
Voilà.
Ah, c'est terrible.
Non, excusez-moi, je vous raconte des choses qui sont tristes.
Non, c'est bien. Mais il faut parler des choses de la vie. Bien sûr qu'il faut en parler. Et donc, durant cette canicule, Safia, toi qui es gardienne d'immeuble, enfin, une des dernières, hein, parce qu'il y en a de moins en moins avec aujourd'hui tous ces... Quel dommage, mon Dieu, parce que tout tournait autour de ce qu'on appelait ça portait un nom, du gardien, la loge. On appelait ça la loge.
Oui, la loge. Oui. Oh on a toujours des loges. Hein.
Oui, mais ça se perd de plus en plus.
Il y en a
de moins
en moins.
Beaucoup
maintenant.
Non.
C'est moins en moins, même chez nous.
Oh, oui.
Moi, ça fait 32 ans que je suis dans ce poste. Ils veulent plus de gardiens. Ils veulent que ça soit des sociétés qui font le ménage.
C'est ça.
Et bon, voilà, ils veulent plus que.
Oui, avec les digicodes, les machins, etc. Les codes. Voilà. C'est dommage.
Ça coûte plus cher. Oui.
Mais c'est dommage. Parce que la c'est vie. Dommage. Qui c'est qui faisait vivre, c'était quoi l'âme, j'ai envie de dire même, oui, l'âme, de l'immeuble, d'un immeuble. Ben, c'est le gardien. À l'époque, on disait le ou la concierge. Et des fois, ils étaient en couple, les concierges. Mais c'est eux qui faisaient vivre, c'était eux l'âme de l'immeuble. Et puis, il y avait une sécurité, parce que il y avait toujours une vitre, une porte vitrée, etc. Donc,
la lumière... Il y a la confiance aussi, hein.
Oui, puis la lumière qui s'allume, donc ils voient tout, nuit et jour. S'il y a quelqu'un qui a un problème, ben, il va toquer.
Pour le moment, ils veulent plus. Maintenant, on est dans on est dans 93. Il y a plus de gardiens directement dans l'immeuble là où il habite. Il habite ailleurs et il vient travailler dans la journée et pas.
Ouais, c'est un métier comme un autre. Non, ça devrait pas être comme ça. Avant, c'était pas un métier comme un autre.
Je peux envoyer un message.
C'était un membre de la famille. Oh mon Dieu. Oui, vas-y, envoie un message, ma chérie.
Alors moi, j'envoie un message à la personne quand il m'entend parler. Je donne mon prénom, il m'enregistre, il envoie à mes enfants. Moi, je suis adulte, je fais ce que je veux de ma vie. Je veux pas qu'on m'enregistre et on envoie à mes enfants. Moi, je fais pas les choses en cachette. Je parle dans une radio et souvent, j'appelle que Vanessa.
C'est incroyable. Safia,
ça, elle va peut-être se reconnaître, oui.
Mais c'est incroyable, ma chérie, ce que tu me racontes. Mais les gens, ils sont.
C'est la vérité. C'est la vérité.
Comment on peut être abruti à ce point? Non, mais attends, c'est juste pas possible.
Il a envoyé à quelqu'un de mes enfants. Il a dit, regarde, il y a ta mère qui passe sur la radio. Bah, et alors?
Oui, et alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait?
Je veux juste te dire que.
C'est fou, hein, Fatiha. Tu as vu? Quoi cette mentalité? Tu sais nous, on... non mais j'ai envie, nous encore, tu vois, je veux dire, tu sais, on est resté au stade de, tu vois, on parle de nostalgie, mais de la belle nostalgie. Mais il y en a qui l'ont. Comment?
C'est peut-être un jeune.
Peu importe, mais ça veut dire qu'il a reçu une très mauvaise éducation. C'est quoi cette histoire?
Mes enfants, ils savent que ce que je fais. Ils savent que je suis dans le parking au train
d'appel. Et tu dois rien à personne? Mais c'est quoi ça? Moi, on ne doit rien à personne.
Excuse-moi, je rentre un truc.
Vas-y.
Juste, je dis que c'était, je sais pas, enregistrer une personne et l'envoyer, je sais pas compris.
Mais quelle bêtise.
Parenthèse.
Non, mais c'est bien de dénoncer ça, tu vois, parce que il y a encore des gens qui, malheureusement, s'ennuient dans leur vie, n'ont rien à faire que d'aller enregistrer les gens et de... franchement, occupez-vous de vos affaires. Moi, je leur dis, si vous occupez pas de vos affaires, c'est RB qui va s'occuper de vous.
En plus, je sais pas si tu te rappelles, parce que moi, j'ai appelé pour vendre des bricoles chez moi.
Oui, dans les petites annonces, et alors?
Voilà, dans les petites annonces, et c'est tout. Voilà. Il y en a un monsieur aussi qui m'a appelé, il m'a dit... c'est pas la peine de parler avec Vanessa, il restait longtemps de parler avec elle, parce que je dis, moi, Vanessa, elle est dans la radio, elle peut même couper si elle veut, elle coupe, moi, c'est pas grave.
Tu restes le temps que tu veux, pourquoi il est, c'est mon avocat, lui. Ah, c'est marrant, ça. Ils sont marrants, les gens, hein. Oh là là, des mains.
Mais je tiens à le dire, excuse-moi, mais je suis comme ça.
Non, mais t'as raison.
Il faut de tout pour faire un monde.
Non, mais on vit dans un monde, mais c'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Ouais, hein. On vit dans un monde. Oh, c'est incroyable. Et incroyable.
Donc, qui l'enregistre aujourd'hui? On a des belles voix, quand même, non?
Voilà, exactement. Non, mais tu te rends compte, mais de là à l'enregistrer pour envoyer à ses enfants, ouais, pour dire. Non, mais quel. C'est pas possible.
Mais même, elle me l'a envoyé, je peux vous la réécouter parce que ma fille, elle me l'a envoyé.
C'est
incroyable. Oh ouais, bon, c'est pas grave, ça c'est rien. On parle pour les
bêtises, vraiment.
C'est pas important.
Oui. Est-ce que Cédric est là toujours?
Ah bah oui, je suis là. Elle a raison, de toute façon, même on parlait de hausse de température. Non, mais c'est vrai, il y a personne, eux-mêmes, font monter la température. J'ai l'impression.
T'as vu ça? Je te jure. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est les gens. Ça monte très vite dans leur tête. C'est incroyable. Ouais. On en est là, non mais c'est terrible. Non mais ça c'est hormis ton histoire là, en fait, c'est Safia qui nous rappelle des choses, hein, concernant des faits.
Ouais, je sais,
les gens se surveillent.
Moi je t'entends des fois, enfin, je suis toujours
les baffons.
Comment Safia, tu disais?
Tu te laisses pas faire, c'est bien.
Ah oui, non, moi ça m'énerve. Il y a des choses, c'est pas possible. Ah oui.
Vanessa.
Non, ça me dépasse. Il y a des choses qui dépassent. Mais les gens ont pris cette habitude de se surveiller, mais on est des gens libres. Vous comprenez pas ce que c'est libre? La liberté, il y a des gens qui sont morts pour leur liberté. Donc les gens sont libres de parler, de raconter leur vie. Moi, je défendrai toujours ceux auxquels on fait du mal et qu'on critique tout le temps. J'ai toujours défendu toutes les personnes, les minorités surtout. Par exemple, les homosexuels. Eh bien, ils dérangent. En quoi ça vous dérange? Ils sont là, c'est péché, hein, c'est péché, tu vas en enfer. Comment tu sais qu'ils veulent en enfer? Déjà, toi, j'ai envie de lui dire à ces gens-là, celui qui parle comme ça, eh bien, celui-là, avec sa langue, si l'enfer, il est quelque part, eh bien, c'est lui qui va rentrer dedans avant lui. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que
on
ça? Ils sont là, là, il est homo, là, il est ceci. Mais,
non.
Occupez-vous de vos vies, vous n'avez pas de problème.
Vous
avez de la chance, hein, franchement, de ne pas avoir de problème.
Chacun, il est comme il est.
Incroyable.
Ça, on a connu ça il y a longtemps.
Ah ouais.
On voyait des gens comme ça qui sont un peu, je vais dire, efféminés et tout ça. Même quand j'étais plus jeune, hein,
ben oui.
On n'a jamais fait attention à ça. On ne fait pas attention parce qu'on se dit, il ne faut pas. Et moi, je vais vous raconter un truc. Il y a une
et puis c'est des gens comme tout le monde, c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'un hétéro, il serait. Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un homo? Ce que tu as, toi, monsieur l'hétéro, l'homo, il l'a aussi. Sauf que lui, eh bien, il est différent de toi, c'est tout. Et peut-être que toi, tu l'es, j'ai envie de dire à certains, mais c'est des homos refoulés. Donc, ils vont s'attaquer à des homosexuels parce que ils refusent, si tu veux, peut-être qu'à un moment donné, ils ont été attirés par les hommes quand ils étaient jeunes, mais ils ont enfoui au fond d'eux cette envie, cette attirance, et ça les titille de voir que les autres, ils vivent leur pleinement et librement. Et parce que c'est des personnes qui sont épanouies, qui n'ont de compte à rendre à personne, donc ils sont jaloux de leur liberté, moi je dis. Mais c'est peut-être ça, parce que quand tu vois ce que dit la psychanalyse, eh bien, il y a beaucoup d'hétéros, il y en a, hein, qui sont des homos refoulés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils étaient jeunes, ils étaient attirés par des hommes. Mais comme ils osaient pas, ils pouvaient, voilà, il y a la société, tout ça, tout ça. Eh ben, ça reste dans un coin de leur tête. Et pourquoi l'autre, il est libre de vivre sa vie que... Alors donc, arrêtez. Parce que, d'abord, on est ni homme, ni femme, ni ceci, cela. On est tout un mélange. On est tout mélangé en nous. Il y a le X, le Y, et il y a aussi le Z. Allez, oui.
En fait, Vanessa, moi, je connais un couple. Je connais même... je crois que c'est des voisins ou quoi. Je crois qu'ils sont liés, mais depuis des années. Bon, moi, je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans
le Bien sûr.
Apparemment, ils sont très, très ouverts et tout. Hein. Tu sais, c'est pas un
tabou. Bah oui. T'as des couples homo, tu dis, ça fait des années. T'as des couples homo qui sont beaucoup plus fidèles et qui durent dans le temps jusqu'à la mort que beaucoup de couples hétéros. Un orage, je l'ai tout, il va tromper sa femme au coin de rue, sa femme, elle est avec lui. On les voit dans les voitures, des fois. Sa femme, elle est à côté, lui, toi, tu passes et lui, il te regarde comme ça, il te ziote. Il regarde les jeunes filles, il regarde tout, leur autonomie. Oui, voilà, anatomie, qu'est-ce que je raconte, moi. Mais oui.
Justement, Vanessa, c'est que la psychanalyse, comme tu dis, elle est extrêmement large sur le débat, en fait.
Ah, mais complètement.
Moi, comme je te dis, ces gens vivent en paix, sont prêts même à aider leurs prochains. Hein. C'est ça qui est incroyable, c'est que demain, il y a des gens qui vont se faire devant chez eux. Eux, ils seraient capables de...
Mais complètement. N'importe
qui. Mais la psychanalyse, elle explique aussi une chose. Par exemple, tu sais, aujourd'hui, comme on dit, bon, tout est dur, tout est compliqué. Et, il y a encore 50, 60 ans, même si je respecte totalement leur choix de vie, c'est leur choix de vie, je m'occupe de ma vie, déjà elle est compliquée, et après peut-être je m'occuperai de leur vie, mais le truc c'est que la psychanalyse a expliqué une chose, c'est qu'il y a une sorte de lassitude qui s'installe chez ces personnes. Ils voient la vie comme fonder une famille, tout de suite mettre le pas, faire des rendez-vous, s'attacher, entretenir, créer des liens, se lancer, se redécouvrir, tout ça, ça leur paraît très dur. En fait, avant, il y avait une petite minorité de personnes. Sauf qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes.
Attends, Cédric, excuse-moi de t'interrompre. Non, il n'y avait pas de minorité. Ça a toujours existé depuis que l'homme, l'être humain existe sur cette terre, il y a l'homosexualité. Sauf que, avant, ils avaient, les pauvres, on leur interdisait d'exprimer de se montrer. Donc, ils rasaient les murs, ils se cachaient, ils montraient pas. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'un homosexuel n'est pas forcément efféminé. Moi, j'ai des amis que je connais et qui sont homosexuels. Eh ben, tu jures qu'ils ne sont pas. Parce qu'ils n'ont rien, aucune apparence, hein, attention, hein. Alors, c'était pas une minorité, ça a toujours existé, sauf qu'on leur, ils étaient les pauvres interdits d'exister, et on les mettait même en prison dans beaucoup de pays, ils étaient poursuivis par la justice, et il y a encore des pays où on les tue, on les pend, etc. Et ils ont toujours été pourchassés, les homosexuels. Donc, ce qui fait qu'ils se montraient pas, c'est tout. Mais ils ont toujours existé. T'en as qui sont mariés, ils ont des enfants, tu sais même pas qu'ils sont homosexuels. Mais il y a autant de nombres, hein. Ah oui, non.
Il y a 100 ans.
Là, ils se montrent, et là, ils se cachent pas, ils ont raison, c'est tout.
Ils étaient chassés autant que les sorcières. Ça, tu peux pas le dire. Il y a 100
ans. Ben oui. Mais aujourd'hui, ils se montrent plus dans, surtout, en Occident, il y a des lois qui les protègent, donc, ils ont cette liberté de pouvoir vivre tranquillement, en paix. Alors, donc, c'est pour ça qu'on les voit. Mais en vérité, même en France, hein, c'était interdit. Donc, c'est pour ça qu'on les voyait pas. Et dans nos pays, alors là, je te raconte même pas, il y en a énorme. Il y en a comme partout. Il y en a, les gens ils savent pas, mais il y en a qui sont mariés, et les gens savent pas qu'ils sont homosexuels. Ils sont obligés de se marier, de faire des enfants.
Là, ça c'est plus grave ça.
Mais ils te disent pour pas passer inaperçu, parce que l'hadaratubda, tu vois, les gens ils commencent à faire à jaser. Ah ouais, t'as vu, un peu efféminé. Hein, t'as vu, il est pas marié. T'as vu, oh, je crois que je l'ai vu avec un copain. Waqila. Donc ils en ont alors tellement marre pour pouvoir survivre dans ces sociétés rétrogrades et vraiment moyenâgeuses. Eh bien pour survivre, ils sont obligés de se marier, mais ça, ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix.
J'ai une question, Vanessa.
Ouais.
Lors de tes chroniques, pas tes chroniques, mais le soir, lors de confidences, ça dure 2 heures. C'est vrai qu'on fait le tour d'énormément de choses. Mais si on rebondit sur ce qui a été dit il y a 10 minutes, concernant les personnes âgées.
Oui.
On a beaucoup d'attention par rapport à elles.
Oui.
Et maintenant, j'ai une question à te poser, Vincent. quand tu es dans un EHPAD, une personne, par exemple, on va dans un EHPAD.
Ouais.
Et on ramène des personnes gays. Les personnes âgées vont être contentes de la visite. C'est comme en famille. Ils sont contents de la visite de leurs petits-enfants. Mais quelque part, il y a une sorte d'incompréhension là-dessus. Et ce serait, malheureusement, excusez-moi du terme, mais cracher un peu sur la façon de nos anciens dont ils pensent.
Pas les anciens, il y avait des homos chez les anciens. L'homosexualité a toujours existé. Et je vais te dire une chose. Là où tu te trompes, Cédric, c'est que, justement, les grands. Attends, les grands-parents. Les personnes d'autres générations sont beaucoup plus, disons, beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus tolérantes que leurs parents, les homosexuels. Et je peux te le dire, hein. Je peux te le dire parce que je connais beaucoup, pas mal d'homosexuels qui sont, qui sont protégés par leurs grands-parents. Et les parents, des fois, par rapport au regard des gens, etc. Je critique pas les parents parce que le regard des gens, il est dur. Je peux comprendre les parents parce que c'est le regard des autres. Les gens sont très méchants. Regarde la preuve, Safia, la pauvre, rien qu'elle appelle, voilà, elle échange 2-3 mots. Après, ils prennent le temps d'enregistrer, d'envoyer à ses enfants, etc. Tu vois les gens comment ils sont méchants. Donc imagine un homosexuel. Voilà, le problème, il est là. Donc c'est pour ça que les parents.
On aurait passé autre chose.
Oui, voilà, mais c'est vrai. Et les parents, qu'est-ce qui se passe? Les parents, ils ont peur du regard des autres. Ou c'est juste ça, les parents. Autrement, ils aiment leur enfant. Par contre, là où tu fais erreur, c'est que les grands-parents, ils ont dépassé ce stade. Les grands-parents, tu peux tout leur raconter. Ce que tu peux pas raconter à tes parents. Parce que les grands-parents ont la sagesse de l'âge. Ils ont du recul. Voilà, du recul sur la vie. Et ils sont beaucoup plus tolérants et ils adorent leurs petits-enfants, quel que soit leur vie, etc. Crois-moi qu'ils sont beaucoup plus tolérants que...
Vanessa, je peux m'exprimer du coup?
Non, mais vas-y, mais pour te dire, voilà.
C'est les seuls, Vanessa, qui ont une réflexion poussée là-dessus. Ils ont le temps de réfléchir, ils ont le temps, ils ne vont pas brusquer quelqu'un, ils vont essayer de comprendre. En fait, ils n'ont même pas, tu ne vas même pas le savoir, ils ont du respect, les anciens. Ils ont de la visite et qu'ils acceptent d'ouvrir leur porte et de
mais oui
les personnes s'assoient.
Parce qu'ils ont du recul et de l'expérience.
De là en faire. Moi, Vanessa, tu dis, en parlant toute transparence ici,
oui.
C'est ton choix. Pour toi, tu peux me dire que je me trompe, mais moi, j'ai une famille. Je ne veux pas en faire non plus un débat pour le ramadan. On peut parler d'autre chose, d'homosexualité. Mais dans ma famille.
Ouais, mais ils existent. Il y a des homosexuels. Moi, pendant moi. Attends, Samhali, excuse-moi. Il y a des homosexuels qui sont musulmans et qui font ramadan. Oui, et alors c'est pas à nous de les juger. C'est pas on peut pas dire c'est honteux, c'est comme si tu parles de quelqu'un qui a une différence, peu importe ce que c'est, et tu dis je veux pas parler de ça parce qu'il est voilà. Non, l'homosexualité c'est pas le sexe. C'est ça le problème. Là, on n'est pas en train de parler de sexualité. Et ça n'a rien à voir avec la sexualité de la personne. Tu as des homosexuels qui vivent ensemble parce qu'ils sont attirés par le même sexe, mais ils vivent ensemble. Mais ils ne pratiquent rien, ils ont même pas de sexualité, il y a rien. Juste il y a le cœur qui vibre l'un pour l'autre, ils s'aiment, c'est tout. Ça existe aussi parce que on pense que les hétérosexuels ouais, c'est des saints. C'est pas des saints. Comment ils font des enfants? C'est pas des il y a personne qui est saint hormis Allah subhanahu. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à avoir cette discussion. Peu importe quelle époque, période de l'année, etc. T'as des homosexuels qui font même le hajj. Mais c'est très bien que c'est des belles personnes dans leur cœur.
On ne parle pas de discrimination dans l'instant T, sur les 5 dernières minutes et sur les 20 dernières minutes qu'on parle de ça. On parle pas de discrimination, je ne me trompe pas. On parle d'étonnement, on parle de d'évolution. Étonnement, de
mais il faut que, justement, mais il faut avancer avec ça.
On a évoqué la discrimination sur la radio comme ce soir. Alors là, vraiment, je me trompe.
De quoi?
On n'a pas du tout été discriminatoire.
Mais c'était pour aller dans ton sens en disant oui, c'est vrai qu'on peut en parler.
Tu sais que je suis chiant, c'est pas comme Alpha à venir et puis
après. Non, t'es pas du tout.
Mais je suis chiant.
Non, ouais. tu n'es pas ce que tu dis. Tu n'es pas ce que tu dis. Cédric, c'est juste. Je pense que bon, c'est vrai que si tu penses ça, parce que. Il y a une forme de conditionnement.
Pendant tu t'es affolé pendant 5 minutes, on a même pas pu dire qu'en fait on parlait pas de discrimination, on disait par rapport à nos anciens, l'étonnement. que aujourd'hui, il y a pendant 2000 ans, même ouais. si moi j'ai ma sœur qui l'est, je te l'ai déjà dit, j'ai mon cousin qui l'est,
regarde.
Mon meilleur pote, son frère aîné, ils ont été discriminés.
Tu vois, ils ont été discriminés. Moi-même, on va en parler. Eh ben, tu vois, Cédric ne part pas, s'il te plaît. Safia non plus. Fatiha, les autres, vous pouvez venir aussi. On a une petite pause. On revient juste après. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Beur FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
الهشمي قروي بالحاج الهشمي قروي بالله يرحمه يسع عليه نسبلك يا عمري مون ديو سيت شانسون hein ça remue hein n'est-ce pas les souvenirs et c'est des chansons du ben des veillées du mois de Ramadan hein voilà et oui donc Gerwebi cette semaine vous avez eu Chao chez El Tlayani c'est voilà ça représente aussi les soirées du mois de Ramadan. On passera aussi du chabi marocain. On en a passé il y a quelques jours aussi, il y a quelques semaines. Et pour penser à tout le monde. Eh oui, c'est important. C'est très important, tout ça. Ça fait partie des souvenirs, de tout ce qu'on est en train de se dire, d'ailleurs. Bon, alors, Cédric, je pensais que tu étais parti. Heureusement que tu es revenu, parce qu'alors là... Bonjour. Alors là, c'est tout.
Je voulais faire une petite parenthèse.
Vas-y, Cédric. Cédric, il t'arrive de sourire ?
Pardon.
Rien comment tu parles. Bon. Cédric, attends, te formalise pas, tu me connais comment je fonctionne. Parce que je t'aime beaucoup, la vérité. C'est pour ça que je me permets. Parce que Cédric, quand
il
tu
très,
parles.
Très sérieux. Ouais.
Alors donc, je vais dire une chose. Alors donc, tu sais, Vanessa, alors si je peux me permettre, tu sais, voilà. Alors, si t'as le sourire, tu fais. Alors donc, est-ce que je peux. Tu vois, voilà. Voilà, la différence. Je suis sûre qu'il t'arrive de sourire dans la vie. On va écouter Cédric parce qu'il a quelque chose à dire. Ouvrons bien grand nos oreilles et t'auras la parole juste après Fatiha. Oui Cédric, vas-y, je t'écoute.
Voilà, je vais faire une petite parenthèse hein, qui a totalement rien à voir parce que bon, on a assez parlé du sujet précédent.
D'accord, alors parle de ce que tu veux. Vas-y.
On va revenir un peu à nous. Moi, à ma racine. Hein. Alors, ma petite parenthèse, j'intitule Le Maroc légendaire.
Le Maroc légendaire, vas-y.
Alors, l'Atlas. Ces oui. montagnes marquaient la frontière du monde antique connu. Elles tirent leur nom d'Atlas, qui combattit en vain avec d'autres géants, des dieux conduits par Zeus. Atlas fut condamné à soutenir la voûte du ciel, alors qu'il avait refusé l'hospitalité à Persée. Ce dernier lui montra la tête de Gorgone, qu'il avait tué. Et Atlas, pétrifié, fut transformé en montagne. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle les montagnes...
L'Atlas. C'est un joli nom, hein.
Atlas.
Ah ouais. Le mont Atlas. Il y a aussi l'Atlas en Algérie, hein. Remarque, tu me diras, c'est la même région. C'est vrai ou pas? L'Atlas, c'est dans l'Est en Algérie. L'Atlas. Alors, attends, je vais regarder Atlas algérien et je vais mettre Atlas marocain. Comme ça, on aura les deux. Parce que pourquoi on appelle les deux Atlas? C'est incroyable. Regarde, voilà. Allez hop, je tape. Le Haut Atlas au Maroc. L'Atlas s'étend sur 2500 km de long. Ça, c'est le Maroc, hein. Selon un axe ouest-sud-ouest à est-nord-est. Du Maroc à la Tunisie en passant par le nord de l'Algérie. Ah, c'est pour ça. Donc, en fait, dans les trois pays, on retrouve, l'Atlas traverse. Tu as vu, Cédric? C'est beau, hein?
C'est exactement ça. Et en fait, d'où ces montagnes ont été séparées en deux. J'ai aussi une petite histoire sur Tanger par rapport à la mythologie grecque. C'est le port de Tanger. Oui. Ce port aurait été créé par Anté.
Par qui?
Anté.
C'est qui celui-là?
C'est de la mythologie grecque. Hein.
C'est de la mythologie.
Bah oui. Ouais. Donc géant qui obligeait tous les passants en été avec lui pour les tuer. Anté renouvelait ses forces en touchant le sol. Hercule découvrit le prodige, soulevant le géant et le maintint en l'air jusqu'à ce que mort s'en suivit. Donc voilà le port d'Angers dans la mythologie grecque. Ben voilà le port d'Angers.
Ouais, le titan géant.
Jusqu'à les colonnes d'Hercule. Hein. Les colonnes d'Hercule, ça a un rapport aussi avec les autres montagnes de l'Atlas, le détroit de Gibraltar.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Hein.
Ben, c'est une belle parenthèse. C'est une très belle parenthèse parce que ça fait, bah écoute, ça fait partie bah, de l'histoire d'Afrique du Nord. Hein. Alors là, je regarde, mais c'est très loin. Après, ça parle d'Ibn Khaldoun aussi au XIVe siècle.
Les colonnes d'Hercule, J'ai regardé toujours les colonnes d'Hercule.
Ouais. Hercule, qui était très fort.
Voilà, Hercule, en fait, l'histoire raconte comme ça. Recherchant des bœufs ou des gérons, Hercule arriva à l'extrémité de la Terre. Donc, pourquoi de l'extrémité de la Terre?
Surtout que la Terre, elle n'a pas d'extrémité, mais bon. Il ne savait pas à l'époque. Il pensait que la Terre, elle était plate.
Voilà. Voilà, il était grec. Pour l'extrémité, c'était le Maroc, en fait. C'était le Maroc. Donc, pour eux, c'était l'extrémité.
Ouais. Alors qu'elle est ronde, la Terre,
donc,
mais bon.
Hercule, lui, il arriva à l'extrémité de la Terre, pour lui, donc. Et sépara en deux une énorme montagne qui donna naissance à l'actuel détroit de Gibraltar.
Le détroit de Gibraltar, oui.
Voilà. Il aurait élevé deux colonnes pour indiquer l'endroit où le soleil achevait sa course.
C'est incroyable. Fatiha voulait te répondre. Oui, Fatiha, tu voulais dire quoi?
Excuse-moi, Vanessa.
Oui, vas-y,
je voulais faire une petite remarque. Je suis désolée de faire la remarque. Très intéressant ce que dit Cédric, mais je fais vraiment un gros effort pour quelque chose. Je ne sais pas si Safia est toujours à l'écoute.
Safia, elle est là. Safia est là.
D'accord. Alors, je ne sais pas si... Je vais dire que moi, de mon côté... j'ai l'impression que quand Cédric parle, déjà il y a un bruit de fond, je sais pas, ça parle ou je sais pas, à moi je sais pas. Et c'est complètement voilé, moi j'entends pas.
Tu l'entends pas bien? Il parle doucement, Cédric, il parle doucement, c'est pour ça il est discret.
On dirait que, non, mais on dirait qu'il y a un voile, on dirait qu'il y a quelque chose devant la bouche ou qui cache la voix. Donc c'est pour ça que sinon
tu l'entends mal parce qu'il parle doucement, mais sinon il a rien devant la bouche. Tu sais pourquoi? Parce que nous on l'entend s'il y avait quelque chose. Donc voilà, il parle doucement.
Oui, mais je sais que toi à ton niveau
il balbutie. Oui.
Tu aurais dit tu aurais fait la remarque quand tu nous entends pas ou quelque chose.
Quand j'entends pas,
Non, il a une voix très sereine, il est serein, il n'y a aucun souci, c'est très intéressant.
Elle est très apaisante d'ailleurs sa voix.
C'est dommage qu'il y a des, c'est comme si pour moi il y a des petites coupures, donc il y a un détail qui échappe. Donc là tu parlais de l'Atlas. Moi je pense notamment à l'Atlas Télia, d'après mes souvenirs de géographie.
L'Atlas
Télia, l'Atlas Télia.
Télia
en Algérie, c'est la Télia. Télia en Algérie.
Télia. Télia. Ah, je connaissais pas ça, cette expression. Atlas Télia. Ah ouais. Je vais regarder ce que c'est. Atlas Télia avec deux L, effectivement, est formé d'une chaîne de montagnes longeant les côtes de l'Afrique du Nord et s'étirant sur environ 1400 kilomètres, ma chérie. Alors, ensemble montagneux d'Algérie allongé en bordure du littoral et ayant de 70 à 150 kilomètres de profondeur, qui juxtapose massifs Kabylie et Ouarsenis, Tlemcen, Constantine, Djemila, Guelma, Marnia, Madid, Nedroma. Oh là là, oui. Ah, dis donc, l'Atlas. Après, ça part au Maroc, ça traverse la Tunisie. Mm-hmm. C'est incroyable, C'est incroyable. Ouais. C'est fou,
Vanessa, s'il te plaît, je pourrais dire quelque chose.
Tu peux dire ce que tu veux, tu es libre, ma chérie.
Voilà, je vais dire quelque chose et pourquoi je vais carrément te dire quelque chose, enfin, comme ça, aux auditeurs aussi.
Oui.
Et après, je vais carrément écouter Cédric à ma radio. Je ne veux pas rater ce moment parce qu'il dit des choses intéressantes.
Oui.
Alors, pour Safia, ça s'adresse à Safia.
Eh bien, elle est à l'écoute, elle est avec nous.
Je suis là, oui. J'espère que... Bon, écoute, je vais te dire une chose. Tu fais comme moi.
Dis-moi.
Moi, ma devise, ça a toujours été, un jour, ça fait... Enfin, c'est l'éducation, tout vient de l'éducation. Quand on a une éducation solide...
Oui.
Moi, je me rappelle, mon père, c'est pas uniquement des dictionnaires ou c'est des bibliothèques qui sont parties ou c'est les fondations de l'éducation. Un jour... Je sais pas, il fallait quand on intervient comme ça pour une cause comme ça noble, on va dire. On va au devant de quelque chose pour sauver quelque chose. Alors il nous dit quand tu sens que tu dois intervenir, tu interviens, tu te poses pas de questions, ni du comment, ni du pourquoi, ni ce qu'on
va dire. Tant pis ce que diront les gens.
Non, il faut. Quand toi tu sais.
Tant pis, au détriment de ce que peuvent dire les autres. Il faut avoir cette force, ce courage de dire les choses et de défendre aussi ce qui mérite d'être défendu. Parce que sinon, ça veut dire qu'on manque de courage et qu'on serait des lâches. Ouais. C'est vrai ou pas?
Tu sais, Vanessa,
ouais.
Je vais donner un exemple pour élever le niveau. Donc, c'est lamentable que tes enfants ils aient reçu des choses comme ça. Je vais pour élever le niveau.
La vérité, ça m'a pas vexée. Hein.
Non, pas du tout. Oui.
Moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, il a rien à faire. Tu perces ton mieux. Oui. C'est quoi?
Justement.
Je sais pas. C'est ton travail. C'est pas pourquoi il fait ça. Ouais. J'ai pas compris.
Exactement. Non. Oui. Toi, à ton niveau, tu n'accordes même pas d'importance. Tu trouves ça lamentable et mesquin. Et alors, pour donner un exemple pour élever le niveau des gens comme ça. Parce qu'ils traînent cette mentalité qu'ils drainent dans les vaisseaux de leurs enfants et ça se transmet. C'est bizarre.
C'est ça.
On les voit. Je vais donner un exemple tout simple. Moi, j'ai des petits-enfants.
Oui.
Alors, garçon, alors l'aînée, elle va faire ses 16 ans.
Oui.
Elle est en seconde dans une classe où, actuellement, elle nous a dit qu'ils sont trois dans la classe à jeûner.
Oui.
Il y a elle et deux garçons.
Oui.
Il y a un garçon qui n'est pas musulman.
Oui, mais qui jeûne, oui. C'est son droit.
Et qui jeûne.
C'est son
oui,
droit.
Oui, il veut, voilà. Alors, elle, ils ont un principe, elles sont un groupe de copines. Mm-hmm. Donc, en seconde, c'est toujours comme ça. Au début, il y a des groupes qui se font.
Oui, oui.
Elles sont un groupe de filles.
Oui.
Et comme on dit, il faut bien, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mm-hmm. Donc, les parents, respectivement, Ma petite fille, les parents de ses copines, chacun cherche à savoir les parents de chacun qui leur fille fréquente.
Oui,
je parle
oui,
des
oui.
filles parce qu'elles sont un groupe de filles.
Oui.
Est arrivé le tour de ma fille, elles ont une petite réunion et elle a dit à sa fille, elle lui a dit, tu invites tes copines à la maison.
Mm-hmm.
Elles sont venues, elles sont passées un week-end avec elles. Et puis c'est des filles qui sont très simples. Elle a dit on dormira n'importe comment sur des matelas par terre. C'est pas. Mm-hmm. Et pourtant Dieu seul sait leur. Enfin chacun s'entraîne de vie. On rentre pas dans ces détails.
Oui.
Elles sont venues. Donc elles ont planté ma petite fille dans son cadre familial et elle pareil.
Oui.
Eh bien quand elles doivent elles mangent à la cantine. Mais pour la cantine il faut que les élèves s'inscrivent à l'avance.
Mm-hmm.
Ça se passe comme ça dans leur lycée.
Oui.
Et donc, quand il fait le jour où elles ont sport, elles doivent aller ailleurs qu'au lycée, donc elles vont manger dehors. Et quand elles ne se sont pas inscrites, elles n'ont pas eu le temps, elles vont manger dehors, elles n'ont pas le temps de rentrer chez elles.
Mmh.
Elles vont toujours manger quelque part ensemble.
Mmh.
Alors, maintenant que c'est le ramadan, ma petite fille est un peu gênée de gêner ses copines. Donc, elle ne rentre jamais à midi. Et là, ma fille m'a appelé hier, elle m'a dit, tu te rends compte, Nora, le premier jour, elle est rentrée à la maison. Elle lui a dit, maman, je rentre. Ah bon? Elle lui a dit, parce que mes copines, je ne veux pas les gêner.
Oui, parce qu'elle mange.
Mes copines.
Elle mange. Et elle veut pas les, voilà, elle veut pas les déranger.
Voilà.
Et par respect, eh bien, donc, ouais, c'est bien ça.
Respect
mutuel.
Je vais dire, pire, plus encore, je vais dire, l'esprit élevé, c'est-à-dire la maturité de pensée par rapport à beaucoup d'adultes de bas étage, comme on dit dans leur pensée.
Ah, mais c'est l'éducation. Mais Fatiha, c'est l'éducation, ma chérie. C'est la base. C'est l'éducation. C'est ce qu'on apprend aux enfants à la maison. Tu respectes l'autre. Si le jeune, il fait son ramadan ou autre, hein, eh bien, tu le respectes. Donc, on apprend ça aux enfants. Et vice versa, tu vois, ça s'appelle préparer les enfants au vivre ensemble dans la société pour une société apaisée. Et ça, c'est l'éducation à la maison.
Eh bien, tu sais,
Tarbiya. Mais oui.
Vanessa, ce samedi, inchallah, c'est-à-dire après-demain.
Inchallah.
Elles sont toutes invitées à passer et vivre une soirée de ramadan en bonne et due forme.
Futar et tout.
Tout à l'heure, on parlait de Qtaïf.
Oui.
Et il se trouve que, comme par hasard, ma sœur, qui était venue chez sa fille pour lui garder les enfants pendant
le mois passé,
elle a ramené du Qtaïf.
Oui,
donc, Qtaïf qui est au congélateur.
Oui.
Donc, on va lui. Dire le Qtaïf. Le Khobza, c'est pas des kémiettes qui se vendent.
D'accord. Et qu'est-ce que tu vas leur faire comme repas?
Alors, c'est ma fille qui va décider. Moi, je vais m'occuper des...
Ah, ben tu vas faire le repas de Ramadan quand même. Chorba ou la harira, ça dépend.
Non, on dit charba.
Charba. Et puis, alors, et le plat.
C'est ce qu'elle va décider.
Attends, pardon, attends, pardon, pardon. Oui, Cédric.
Par rapport à la charba, tout ça, en fait, on peut même revenir là-dessus parce que on parlait de la région de l'Atlas et tout, mais le Maroc et l'Algérie, en fait, c'est un peu pareil. En fait, même en parlant de l'Atlas, on peut décider la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Donc, tout ce qui est charba, tout ce qui est.
Oui.
La nourriture, c'est la même.
C'est la même.
En fait, tout à l'heure, je ne sais plus qui est intervenu, nous a parlé de l'Atlas Telia. En fait, quand on voit l'Atlas,
c'est Fatiha.
Il y a une chaîne d'Atlas qui représente le Maroc. Donc ça, c'est exactement les hauts Atlas.
Voilà.
En fait, voilà. Oui. Si on suit la chronologie de toutes les années, les centaines d'années, comment différencier un Marocain d'un Algérien? Un Marocain, lui, vivait dans les montagnes. Donc il était beaucoup plus apaisé, en fait. Il était beaucoup plus dans la.
Oui, mais en Algérie, t'as des gens qui vivent dans les montagnes. En Kabylie, c'est la montagne.
Et en Algérie, justement, il y avait l'Atlas Telia, qui est les hautes plaines. L'Algérie était déjà dessinée de le long de la Méditerranée dans un petit relief d'Atlas et sur le presse arrière. Et une autre plaine entre les deux, chose qu'il n'y avait pas au Maroc. Et en Algérie, en fait, les gens sont peut-être un peu plus virulents qu'au Maroc, parce que justement, c'était une terre qui était beaucoup plus axée pour des
Qu'est-ce que tu entends par virulence? J'ai pas compris.
Des envahissements.
Bah, c'est-à-dire que l'Algérie, c'est 4,5 fois la France, donc c'est un pays qui était très prisé.
Et en fait, c'est ça,
tu comprends, 4,5 fois, le territoire était vaste, et c'est la porte de l'Afrique en même temps, la porte de l'Europe. Et c'est pour ça qu'ils avaient du mal à lâcher, d'ailleurs.
Les Rifains étaient toujours isolés dans les autres montagnes. Les Rifains étaient toujours isolés dans les autres montagnes, constamment, même jusqu'au Sahara, le long de la Méditerranée. Donc, ça ne peut pas être une terre qui peut être conquérie facilement.
Le Maroc, c'est pas que le Rif, mon grand. Cédric, le Maroc, c'est pas que le Rif. Le Maroc, tu vas pas me dire que Casablanca, c'est le nord. Les histoires de colonisation, il y a eu les empires avant, donc de colonisation, de protectorat. Il faut écouter les historiens, le pourquoi du comment, pourquoi protectorat, pourquoi colonisation, comme en Afrique. Mais non. Il y a eu.
C'est la géographie qui a dessiné l'histoire, Vanessa.
Non, mais c'est pas une question. Les Français, quand ils sont arrivés en Algérie, ou en Afrique du Nord tout court, pour coloniser ou pour protéger, le protectorat, c'est parce qu'il y a eu des arrangements avec les personnages qui étaient à l'époque. Je t'assure, mais je connais bien cette histoire.
Comme là, on est en plein dedans, l'impact de la géographie sur un envahisseur. On est en plein dedans, je pense, en plus.
Les colonisations, c'est pour ça qu'il y a des colonisations et il y a des protectorats. Et en Afrique, il y a des colonisations aussi, en Afrique subsaharienne. Et ça, pourtant, c'est pas des régions où forcément est montagneuse, géographie, etc. Non, il y a d'autres raisons. C'est trop long à expliquer.
Je peux te l'envoyer sur Facebook. Étudie-la ce soir, tu vas comprendre. Elle est très simple à comprendre. Je peux te l'envoyer ce soir.
De quoi?
Tu vas comprendre. L'image que j'ai sous les yeux.
Non, mais c'est pas une question d'image. C'est une question d'histoire et de politique. C'est une histoire de politique. C'est-à-dire que l'Algérie a toujours été prisée par les colonisateurs. Et pas que la France, d'ailleurs. Tu sais très bien. Pas que la France. Pourquoi? Justement, géographiquement parlant, c'est la porte. Attends, l'Algérie.
Je parle pas de 1800.
Attends, monte les Phéniciens. La Rome antique, etc.
L'histoire même d'une terre.
De
1800 à aujourd'hui. Moi, je te parle de choses de
même pendant Jésus-Christ, si tu veux, on y va. Avant Jésus-Christ.
En 728, le règne de Jean Séric, le premier dominant de la région de l'Atlas, qu'on l'appelait, c'était en 428, 477, mais en 2024. Je ne vois pas te parler d'une région de 1800 à aujourd'hui, de 200 ans. Mais
on parle pas d'aujourd'hui, Cédric. On parle pas. Quand tu remontes du temps des Phéniciens, etc., la Rome, déjà antique.
Aujourd'hui, la carte que tu as sous les yeux, les cultures ont toujours été comme ça, figées comme ça. D'accord, ouais, d'accord, c'est encore ton avis et je peux le respecter.
C'est pas mon avis, c'est l'histoire qui parle.
Si on approfondit, on creuse un tout petit peu plus et qu'on étudie des choses un peu plus approfondiment. Je pense que tu t'en auras.
Il y a eu des accords à l'époque. Au Maroc, il y a eu des accords, hein, d'accord, qui ont été mis en place en 1912 entre le sultan Moulay Abdelhafiz et ce qui était la Troisième République française à l'époque. Tu vois, il faut remonter à l'histoire pour comprendre le pourquoi. Je vais pas refaire l'histoire et t'expliquer le pourquoi du comment. C'est très complexe, mais quand tu lis, tu comprends. Tu comprends. Parce que c'est des histoires qui se sont passées à l'époque. Et à l'époque, ils avaient leur raison d'être. C'est là où tu comprends. Tu comprends. C'est là où on comprend les choses. Ah ouais, les histoires de colonisation, bah, tu crois qu'ils vont venir juste pour.
Moi, je parle pas de colonisation, je parlais d'envahisseur.
Colonisateur, c'est un envahisseur. Cédric, un colonisateur, si c'est pas un envahisseur, qu'est-ce que c'est, Hambebek? Écoute-moi. Quand les Français sont arrivés en 1830, c'était pas des envahisseurs? Ah, il y en a aujourd'hui qui disent, certains, extrême droite, tout ça, qui disent, oui, mais la colonisation avait du bon en Algérie. Mais quel bon? C'était des envahisseurs, ils sont venus, ils ont envahi. Ils ont envahi. Tout le pays. Kidjarad, c'est
en Afrique, qui était en plein Sahara et qu'ils avaient besoin de terre. Et quand tu remontais dans le nord, la terre était beaucoup moins aride. Je te parle de ces envahisseurs-là, moi. Je te parle pas des envahisseurs, encore une fois.
Je te parle de tous les envahisseurs, si tu veux. De toute façon, un pays qui envahit un pays, c'est un envahisseur.
N'a pas une génétique qui a été impactée par cet envahisseur-là.
Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de frontières. Déjà, il n'y avait pas le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Il n'y avait pas de frontières. Il y avait l'Afrique du Nord. Et quand les Romains sont arrivés, il n'y avait pas de frontières.
Pourquoi on dit pur sang arabe? Pourquoi un pur sang arabe?
Aïe, Cédric, arrête les chevaux maintenant.
Le cheval se cabre. T'as déjà vu un endroit dans le monde où le cheval est capable d'avoir une attitude telle qu'elle? Même Napoléon aurait rêvé d'avoir des chevaux comme ça. C'était des chevaux. C'était le mec arrivé avec des sabres. Le cheval se broquait. Il foutait deux coups de sabot. Le mec, il en avait tué. Et pourquoi? Parce que c'était une terre qui était tout le long de la Méditerranée. Il y avait un commerce énorme. Ça ravitaillait toute l'Afrique. Ça envoyait en Espagne, en Italie. C'était énorme à ce moment-là, Vanessa. Moi, tu veux parler de 1800.
Déjà, quand tu parles de pur sang arabe, les pays d'Afrique du Nord dont tu parles, l'Algérie, le Maroc et l'Algérie, n'étaient pas considérés comme des pays arabes. Donc les pur sang, les chevaux dont tu parles, viennent d'Arabie. Il y a des arabes purs, quoi. Si tu vois ce que je veux dire.
Oui, mais
ils ont bougé, les chevaux. Après, ils bougent.
Comme les voitures.
Mais là où ils sont nés, en tant que pur sang arabe, ils sont nés en Arabie.
Voilà, et toutes ces terres, la terre de la Méditerranée, quand on remonte du Maroc, d'Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, après on remonte, Israël, Liban, jusqu'à la Grèce, l'Italie, l'Espagne un peu moins, mais ça a été des terres privées, en fait. Après, il y a eu la colonisation, comme toi, tu l'as évoqué, mais concernant le Maroc et l'Algérie, comment différencier un peu le peuple, comment on peut différencier un peu en France...
Si t'arrives à la différencier, moi j'arrive pas à la vérité. Je vois pas la différence entre un Marocain et un Algérien.
Le peuple normand et le peuple marseillais, surtout à cette époque-là, comment on peut le différencier?
Ah non, ça c'est des cultures.
Voilà. Et en fait,
ah non, ça c'est culturel, de région à région, mais c'est pas une, il y a pas de différence. Voilà. Un Normand ou un Breton, ça reste des Français. Mais bien sûr que d'une région à une autre, avec le climat, on a des différences dans culturelle, on va dire dans culinaire, voilà, comme en Algérie, de, comme au Maroc, par exemple, ce qu'on mange, je sais pas, à Tanger, eh ben il y a des spécificités. À Rabat, c'est autre chose. En Algérie, Alger, c'est une chose. Tlemcen, c'est autre chose. C'est voilà, c'est dans tous les pays, les régions, c'est des spécificités, on va dire traditionnelles, c'est tout. Mais en réalité, hormis ces traditions qui sont culturelles et régionales, qui font la beauté de ces pays, des pays d'ailleurs, parce que uniforme, ce serait triste. Mais il y a rien de différent. Il y a rien de différent. Un Français de Bretagne. Ou un Français de Normandie ou de Nice ou de ce que tu veux ou de je sais pas enfin ça reste un Français dans l'âme. Un Marocain c'est pareil. Avant il y avait pas de frontières. Marocain, Algérien, Tunisien c'était le même peuple. C'était le même peuple. Il y a aucune différence entre un Marocain, un Algérien ou un Tunisien. C'est comme s'il y avait des régions différentes avec des spécificités qui font la beauté de ces régions. Mais un Marocain, un Algérien, un Tunisien. C'est un même peuple, hein, vraiment. Hein. Avant, il n'y avait pas de frontières.
Quand je dis plus virulent, c'est que. Je ne sais pas, voilà, on va parler de température, mais un Marseillais est beaucoup plus virulent.
Ah, quand tu dis algérien, plus, c'est-à-dire plus chaud de tempérament.
Non,
si tu parles de guerrier, bon. Tu sais pourquoi? Alors, ça, c'est même pas une question de climat, parce qu'on a le même climat. Hein. C'est juste une question d'histoire. L'Algérien, quand il a été colonisé pendant 132 ans, il s'est forgé, si tu veux, une sorte de résilience et une force. Et pendant 8 ans de guerre, essaye de lire ou de regarder un petit peu les archives de la guerre. La guerre d'Algérie. Attends, Cédric, la guerre d'Algérie. Lis bien. Mais vraiment tout, et tu comprendras pourquoi l'Algérien il est aussi chaud comme ça de tempérament. Tu comprends? C'est comme ça. C'est son histoire qui parle pour lui. Parce que dans chaque Algérien, comme chez tous les peuples, ils véhiculent dans leur sang, cette histoire dans leur sang, ils véhiculent une histoire génétique, c'est une mémoire génétique. Il n'y a pas un seul Algérien qui n'a pas au moins un shahid. Je sais qu'ici, ils n'aiment pas le mot shahid, parce que pour eux, c'est, shahid, nous on aime bien, alhamdoulilah, Allah yarhamoum. Donc, Cédric, un shahid, dans chaque famille algérienne, il y a au moins un oncle, un grand-père. Moi, mon père, il est mort shahid. Pour te dire, Moudjahed, il y en a partout. Safia, Fatiha. Dans toutes les familles algériennes, tous leurs grands-parents, leurs grand-mères étaient des Moudjahed.
Il faut dire à Cédric quelque chose, un détail. Il est jeune, donc il peut pas.
C'est pour ça qu'il faut qu'il apprenne l'histoire.
Attends. Parce que là, il parlait de protectorat, parce que là, il est tard pour parler de ça, mais sinon, on va refaire toute l'histoire. Alors, pour l'Algérie, ça a commencé, Cédric, ça a duré 132 ans. Au Maroc et Tunisie, ça n'a pas duré 132 ans. 132 ans, mais qui ont commencé par... alors, pour te donner un exemple, juste comme ça, hein, parce que on parlait de Ramadan, puis on retourne deux siècles avant. Mais il y a beaucoup d'avancées, il y a des gens qui sont très positifs, qui font beaucoup de choses pour effacer, c'est-à-dire pour avancer, voilà, pour tourner la page, avancer, on va dire. Quand ça a commencé par l'expropriation des terres en Algérie. Mais comment ça s'est passé ?
Des terres, oui. Des terres. L'expropriation. Oui.
L'expropriation. Alors, quand on parle, je vais citer un exemple tout simple, parce que là, il est tard, on a tellement de choses à dire. On va parler de Bugeaud.
Ah oui.
On va citer que celui-là. D'ailleurs, dernièrement, j'ai appris que il y a une avenue dans le 16e, donc il est honoré. Les anciens tortionnaires et les anciens, tous qui ont fait beaucoup de vilaines choses en Algérie, ils sont honorés. Tout est relatif, on va dire. Chacun a ses héros. Voilà. Mais il y a des gens qui redressent l'histoire. Eh bien, lui, quand ça a commencé, il a commencé par l'extermination du peuple algérien. C'était le programme. Alors, quand il y a eu les fameuses enfumades, c'était quoi les enfumades? Je ne sais pas si... Les enfumades, c'était quoi? C'était les chambres, on va dire, entre guillemets, à gaz. Il les a inventées bien avant Hitler. Quelque chose, mais c'est différent. C'est-à-dire que, expropriation des terres. Les gens qui se révoltaient, Bon, ils faut voir les révoltes de Mokarani, et si on refait l'histoire, etc. Et ceux qui se révoltaient, alors, le peuple qui fuyait l'armée française, qui devait, parce qu'ils avaient reçu l'ordre de tout exterminer, tout ça, etc., etc. Ils allaient se protéger dans des grottes, donc les montagnes, les grottes. Et il y avait ordre pour les militaires de fermer les orifices de ces grottes par des branchages et d'allumer le feu. Donc automatiquement, les gaz toxiques à l'intérieur tuaient tous les gens
Alors, c'est dommage, on arrive à la fin. Fatiha, si tu peux revenir demain pour en parler, parce qu'on arrive à la fin. Alors, enfumade, alors pour ceux qui connaîtraient pas, les enfumades sont une technique utilisée par le corps expéditionnaire français durant la conquête de l'Algérie en 1844 et 45. Du 18 au 20 juin 45, le lieutenant-colonel Pélissier fait périr par asphyxie quasiment toute une tribu berbère qui avait trouvé refuge dans les grottes du massif de Dahra. Voilà. Comme ça, on en sait un petit peu plus sur les enfumades. Ouais. Voilà, chers amis, c'est terminé pour ce soir. Quel dommage. Reviens, Fatiha, parce que tu sens bien connaître, en tous les cas. Disons, c'est intéressant. Cédric est curieux, il veut se connaître, il a raison, hein, c'est très bien. Et chaque pays avec son histoire, mais il y a toujours des drames, voilà, dans les pays, quand il y a des choses pareilles, des envahisseurs, disons les choses telles qu'elles sont. Voilà. Safia, merci Cédric, merci Fatiha, revenez demain et puis les autres aussi. Voilà, je vous souhaite une belle et douce nuit, chers amis. Saha Sourkoum pour tout à l'heure et puis Saha Ramdankoum pour demain, vous allez jeûner. Merci à Solal, hein, pour la réalisation et pour vous avoir répondu au standard. Demain matin, eh bien, c'est la matinale que vous retrouvez de 7h à 10h avec Kim. Et 10h, 11h, les informés, Adil Farkan, l'émission a bougé. Dorénavant, durant le mois de Ramadan, eh bien 10h, 11h, vous avez Adil Farkan et les informés, les petites annonces juste après. Alors 12h, 13h, ah oui, AVS avec Philippe Robichon, hein, n'oubliez pas, d'accord. Et 13h, 14h, c'est avec moi, vous avez rendez-vous demain, vous aurez rendez-vous à 13h, 14h pour vos petites annonces. Allez, reposez-vous bien, sahas hurkoum, et puis hydratez-vous bien pour demain, pour tenir demain, d'accord. Rabbi qadirkoum, inshallah. À demain, je vous aime, bye.
Trouvez Confidence tous les jours de 22h à minuit et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.